c'est dans les crises qu'il faut investir. Donc les grosses richesses se sont toujours créées pendant les guerres ou pendant les crises, parce qu'en réalité, les prix tombent, et donc tu peux faire des affaires exceptionnelles. Parfois, je vois des métiers basiques, mais les mecs ou les nanas, elles ont délivré et elles font plus de chiffres que la plupart des startups que je croise au quotidien dans leurs rendez-vous un peu prétentieux, tu sais, à Paris.
Ouais.
J'ai été trop frustré dans mes propres expériences, dans des boîtes où j'ai investi, de voir à quel point des investisseurs qui ne sont absolument pas dans l'opérationnel veulent venir donner des conseils alors qu'ils ne connaissent pas la verticale et créent des tensions tellement fortes que ça détruit certaines boîtes. Si tu as 30 gars qui ont fait Polytechnique ou HEC, qui ont réussi à faire des licornes parce qu'ils ont le bon réseau, qui sont connectés, bah ça donne pas envie à Madame Michu qui est à Jonzac, parce que Madame Michu, elle va regarder le truc, elle va se dire « Ok, j'ai pas fait Polytechnique, j'ai pas de réseau, je serai jamais capable de lever 300 millions, ça sert à rien que j'essaie. » Alors qu'en réalité, il y a plein de beaux succès au quotidien et c'est pour ça que je vais souvent en province.
Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson-Duvernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derderian. Vous êtes prêts? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery. Après s'être retrouvé à la rue à 17 ans, il valide un master de droit et après plusieurs petits boulots, il lance en 2017 Feed, aujourd'hui un acteur incontournable de la smart food. Puis en 2021, il participe à l'émission Qui veut être mon associé, ce qui met en image son activité de business angel. Cela le mène en 2022 à lancer le Blast Club. Salut Anthony, comment tu vas?
Très bien, hyper.
Super, je suis hyper content de te retrouver pour enregistrer cet épisode, sauf qu'il suit celui de Luca Mesquita, et j'ai comme co-animatrice aujourd'hui, et pas co-animateur, Paul Terrasson, mais Ariane Jean-Jean, qui anime, le podcast Épargne-toi ça, qui décortique la finance personnelle et l'investissement pour rendre tout ça accessible. Et aujourd'hui, on va discuter du Blast, je crois, c'est ça?
Ouais, Blast Club.
J'ai dit en intro, t'es business angel. C'est quoi être BA?
Être business angel, c'est investir son propre argent, donc on a durement gagné. C'est pour ça que ça a beaucoup plus de poids qu'un VC classique qui investit l'argent des autres. Et donc, il va investir dans des boîtes qui te font kiffer, souvent parce que t'aimes bien le fondateur, en espérant évidemment que t'auras un retour financier, que la startup va se vendre à un moment où tu pourras faire du cash out lors d'un tour de table. Et quelque part, tu soutiens l'économie de ton pays. Donc, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Il y a un essor incroyable en France. On était très en retard comparé aux Américains ou aux Anglais, mais c'est en train d'arriver en force, et donc ravi d'être moi aussi un business angel depuis 8 ans à peu près.
On reviendra sur ce qu'est un VC après. Tu as monté le Blast. C'est quoi la différence entre le Blast, ton activité de BA? C'est la même chose? T'es plus BA, t'es devenu fondateur et gestionnaire du Blast. C'est quoi la limite?
Ouais, quand j'ai créé Feed, du coup, j'ai fait des gros cash out. Donc, c'est-à-dire que j'ai vendu des parts à des fonds d'investissement. Il y a Pepsi qui arrive au capital. Donc, ça m'a fait gagner pas mal d'argent. Et il y a une loi en France qui te permet de réinvestir dans les 24 mois suivants une plus-value pour ne pas payer d'impôts sur ton bénéfice initial. Donc, ça m'a obligé quelque part à découvrir ce monde de l'investissement. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir puisque c'était une manière de revivre les débuts de Feed. En réalité, quand tu vois des fondateurs, fondatrices qui ont les mains dans le cambouis, qui sont en train de douter, mais qui rêvent grand, qui ont une vision. Et du coup, j'ai commencé à créer des club deals parce que j'ai observé qu'il y avait une vraie difficulté pour les business angels qui n'étaient pas très connectés de pouvoir rentrer dans les bons dossiers. Généralement, les bons dossiers startup, ils sont tout de suite pris de court par les professionnels, par les investisseurs qui ont des gros moyens. Et donc, du coup, le petit business angel a beaucoup de mal à se faire une place dans le milieu. Et du coup, j'ai retourné un petit peu le système en rassemblant des footballeurs, des tennisman, des amis qui avaient pas mal d'argent. Et donc, très vite, on était capable de préempter le tour de table. C'est-à-dire qu'un fondateur venait me voir, me disait « Je cherche 1 million d'euros ». Je lui disais « Ok, je les ai demain ». Par contre, je veux baisser la valo, je veux des bonnes conditions parce que je te fais économiser 6 mois de roadshow. Le roadshow, c'est quand tu vas faire le tour de table, le tour de tous les investisseurs, les business angels, les fonds d'investissement. Ça prend beaucoup de temps, tu dois pitcher, à chaque fois c'est 1h30. Il y a plusieurs allers-retours de mail, souvent tu dois même pitcher 3-4 fois. Et donc du coup, ils gagnaient du temps avec nous et on a commencé à investir de plus en plus. J'ai fait une 50aine de deals comme ça en perso. Et en réalité, quand l'émission qui va être mon associé a commencé et que j'ai réalisé à quel point les Français avaient envie d'investir, je recevais moi des centaines de messages chaque jour quand il y avait l'émission me disant j'aimerais investir à tes côtés, comment on fait? Avec un ami Samuel Guez, qui est le fondateur de My Jolly Candle à l'époque et donc avec lequel on a créé le Blast Club, on s'est dit on va automatiser cette possibilité d'investir aux côtés de personnes comme moi qui sont des professionnels. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu veux investir en France, tu dois aller voir ton banquier. Sauf que ton banquier, il n'y connaît rien en startup, donc il te propose même pas ces classes d'actifs. Mais même si tu veux investir en SCPI ou en assurance vie, la réalité, c'est qu'il va te pousser le produit qui lui ramène à lui le plus de back fees. Donc il ne va pas te conseiller sur la qualité, il va te conseiller sur ce que lui peut gagner. Alors que c'est en fait une aberration. Nous, on propose l'inverse. On te dit, viens investir en même temps que moi. Donc, moi, je vais mettre mon argent dans le projet, te montrer à quel point je crois, et je vais te permettre de mettre des tickets de 1000 euros seulement. Donc, en fait, même quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent à investir, il peut le faire. Et c'était la promesse de Blast, vous permettre de rentrer dans les meilleures startups de l'écosystème, même si vous n'avez pas les poches aussi profondes que certains BA parisiens.
On reviendra là-dessus juste après. Juste avant, et même avant de retourner encore en amont sur la discussion, toi, t'es accrédité, comment ça s'appelle?
PSFP.
Conseiller en gestion de patrimoine ou pas?
Non, on est PSFP, c'est un nouveau statut européen.
Ouais.
Donc c'est un agrément qui nous permet d'exercer notre activité. Et c'est la meilleure option pour nous, puisque à l'époque, c'était un peu plus compliqué. Il fallait être soit CIF, soit
Ouais.
PSI. Donc CIF, c'est conseiller en investissement financier. PSI, c'est
Et
prestataire
donc
de
là, ce
services
que t'as.
d'investissement. Nous, c'est PSFP, c'est prestataire de services de financement participatif. Donc c'est le crowd equity, crowdfunding.
Et donc tu peux donner des conseils d'investissement.
On donne pas de conseils en tant que tel. Nous, on dit simplement aux gens, voilà un dossier dans lequel on va investir notre argent. On explique pourquoi on va investir. Donc, on fait une note d'analyse, on fait une analyse de risque, on présente le deck, on présente le BP, on organise un live avec les fondateurs et les 3500 membres de Blast. Et à la fin, chacun prend sa décision. Donc, on n'est pas un fonds d'investissement, c'est-à-dire qu'on ne gère pas l'argent de nos membres, parce que dans ce cas-là, on leur dirait, voilà, tu veux investir 10 000, tu nous envoies 10 000, nous on les gère comme on veut, et on te fait un reporting dans 7 ans. C'est ce qui se passe avec les fonds d'investissement classiques. Nous, on leur dit, voilà, on vous présente 4 opportunités par mois. Vous avez le choix et vous décidez combien vous mettez dans chacun de ces dossiers. Et après, les membres envoient directement l'argent dans le SPV, qui lui-même va envoyer l'argent à la start-up.
Là, tu nous as balancé plein de mots. On
Ouais.
reviendra là-dessus après. SPV, fonds, etc. Du coup, on rappelle aux auditeurs qu'on ne fait pas de conseils en investissement et qu'investir comporte des risques de perte de capital et
Et c'est quoi
d'illiquidité. Non, tu la connais par cœur.
Ça, c'est vrai que moi, je suis pas très opérationnel. J'aime laisser ça à Samuel, qui est le bourrin du quotidien. Mais on va résoudre ce problème de liquidité. D'illiquidité, tu as raison de le préciser, c'était le gros point faible de l'actif startup. Parce que quand tu investis dans une startup, généralement, il n'y a pas de liquidité avant 7-8 ans, sauf s'il y a un IPO, une vente ou un cash out pendant un tour de table. C'est le point faible parce que les gens, ils n'ont pas envie de pas avoir de vision. Au final, même l'immobilier, c'est liquide.
C'est le point faible d'un club deal.
Ouais, c'est le point faible du club deal et nous on a réussi en fait à le craquer. On va l'annoncer à la fin de l'année. On
Attends,
fait une plateforme de
on revient
solidarité.
là-dessus après,
Ouais.
comme ça. D'abord, tu nous expliques pourquoi les startups elles ont besoin de se financer. Parce que on est directement rentré dans l'idée qu'on a besoin de financer les startups, mais on s'est pas demandé pourquoi.
Les startups, en fait, pour moi, c'est des machines à trouver un business model. C'est-à-dire que c'est pas encore des entreprises. Pour moi, une entreprise, c'est quelqu'un qui a poké, proof of concept. C'est-à-dire qu'elle sait comment fonctionner, elle a compris le produit qui plaisait au client, product market fit, et elle a mis un bon pricing dessus qui lui permet de vivre et d'avoir des clients. Parce qu'en fait, tu as plusieurs formes de réussite dans le business. Tu as la réussite médiatique. Il y a beaucoup de startups dont on parle beaucoup.
Surtout
Mais
en France,
ces
ouais.
startups-là, elles rapportent pas d'argent. Donc parfois, elles ont même des statuts de licorne, donc ça valent plus qu'un milliard d'euros. Mais la réalité, c'est que quand tu regardes les chiffres, elles font même pas 2 millions de chiffre d'affaires. Donc il y a la réussite après qui est, on va dire, financière de l'entreprise. Donc est-ce qu'elle est capable de faire de l'EBITDA? Parce que le chiffre d'affaires, c'est tout en haut. Mais ensuite, faut descendre, tu as les charges, et à la fin, tu as ton bénéfice. Donc ça, c'est la réussite financière de l'entreprise. Et il y a une troisième réussite qu'on oublie souvent, c'est la réussite financière du fondateur ou de la fondatrice. Parce qu'en réalité, moi, je connais une tonne d'entrepreneurs qui sont beaucoup sur les médias, sur les réseaux, Sauf qu'en fait, ils ont pas d'argent, ils partent pas en vacances, et quand tu vois leur lifestyle, ça fait de la peine. Tu vois, il faudrait, à mon avis, réfléchir à aller dans un CDI un peu plus rémunérateur. Et c'est vraiment un piège que je veux annoncer dès le début, parce que on a un petit peu glorifié le rôle de l'entrepreneur ces dernières années en France, en disant que c'était exceptionnel, que c'était la liberté, qu'on allait tous être riches. La réalité, c'est qu'il y a très peu de personnes qui ont pris des millions, et que c'est un métier qu'il faut faire quand on est passionné avec une véritable vision et pas seulement pour s'enrichir rapidement.
On reviendra là-dessus après parce que j'ai plein de questions du coup sur ta stratégie, sur les actions de préférence, etc. que tu mets un peu dans les term sheets. Juste est-ce que rapidement tu peux nous rappeler les différents moyens de se financer pour une startup? Et certains dont on les balayera pas, mais ça donne au moins une vue globale de tout ça.
Ouais, une start-up, le souci, c'est que comme elle n'a pas de résultat, elle n'a pas de bilan, la plupart du temps, elle peut pas aller se financer en dette. Donc, la dette, c'est assez classique, c'est tu vas voir ta banque et tu leur demandes un crédit que tu vas rembourser sur X années. Le problème, c'est qu'une banque, si elle n'a pas les preuves sous les yeux que tu es capable de la rembourser, elle te prêtera jamais. On a tous eu le problème en voulant acheter un appartement, une voiture. Si t'es pas capable de prouver que tu peux rembourser en un an, on va dire, le bien, personne n'y va. Donc, la dette, on la met de côté. Après, il reste de la levée de fonds. Donc, la levée de fonds, c'est ce qu'on fait nous. C'est tu donnes du pourcentage de ton capital en échange d'argent. Typiquement, admettons que tu veux lever 1 million. Tu vas prendre 1 million, mais tu vas céder 20-25% de ton capital à de nouveaux investisseurs qui vont avoir des droits en plus. C'est-à-dire que tu n'es plus vraiment chez toi. C'est plus ta boîte puisque tu as cédé des parts et que souvent, il y a un pacte actionnaire qui est associé. Tu vas avoir des obligations de reporting, mais des conditions juridiques qui peuvent aussi être défavorables. T'as du crowd equity slash crowdfunding, c'est une nouveauté, c'est arrivé il y a quelques années en France. C'est tu fais rentrer des particuliers et soit tu leur vends un produit en exclusivité en amont même qu'il existe et donc les gens qui veulent t'accompagner vont t'envoyer de l'argent ou alors du crowd equity comme le fait Blast, c'est là pour le coup des parts sociales que tu vas donner à des particuliers qui vont investir et qui vont être très nombreux. Donc c'est parfois mal géré parce que si tu dois te taper toi-même 45 lignes ou 200 lignes dans ta cap table à gérer, c'est un enfer. Mais quand c'est bien fait comme avec Blast, et que tout le monde rentre dans une holding, hein, ce qu'on appelle le SPV, Special Purpose Vehicle. Bon, mais là, tu traites avec le président du SPV. En l'occurrence, chez Blast, c'est tout le temps moi. Donc, c'est moi qui ai pouvoir de signature au nom de Blast. Et là, c'est relativement facile à gérer. Et en plus, tu deviens, on va dire, tu as des actionnaires qui sont ambassadeurs, qui sont des early adopters, qui vont parler de ton produit sur leur réseau. Donc, c'est vraiment de la smart money qui est souvent utilisé ce terme par les VC. C'est jamais trop vrai, hein. J'ai jamais vu, moi, en tout cas, un VC qui crée beaucoup de valeur. Mais par contre, quand tu as des ambassadeurs et qu'on a 3 500 au capital, c'est autant de personnes qui vont parler de ton produit. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme manière de se financer? Tu as des obligations, mais c'est pareil, c'est quand tu as les moyens de montrer que tu fais quand même du gros chiffre. Donc, l'oblig, ça marche pas pour les startups. Puis après, tu as
T'as
ce
des
qu'ils appellent
subs après.
la love money.
Ouais.
Alors la love money, c'est vraiment le tout début, c'est quand tu vas voir tes cousins, ta tante, tes amis, tu leur dis mets 1 000 euros dans ma boîte. Ça te permet parfois de réunir 20, 50 000 et de te lancer le temps d'avoir une vraie levée de fonds.
En parlant des VC, justement, on voit, selon EY en France, mais surtout aux États-Unis, que en 2023 par rapport à 2022, en gros, le financement accordé par les VC aux startups a pris moins 50%. Et de ce que tu as dit aussi par rapport à aider les fondateurs, etc., est-ce que tu envisages Blast comme une alternative au fait que les VC, du coup, sont pas non plus les mêmes board members que le serait un crowdfunding pour les fondateurs?
Oui, c'est intéressant. Dans une période extrêmement compliquée, hein, pour les startups, parce que le financement, s'est drastiquement réduit. L'année dernière, ou allez, on va dire en 2020-2021, quand c'était la folie au niveau de l'écosystème startup, tu pouvais lever très facilement 50 millions, 100 millions, si tu avais un peu de FOMO. Aujourd'hui, ce n'est plus possible parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs. Donc, il y a eu beaucoup d'échecs qui ont fait mal à l'écosystème. Pourtant des boîtes qui avaient levé parfois 100, 200, 500 millions. Et puis évidemment, il y a eu le Covid, la crise financière au niveau global, hein, avec les guerres en Ukraine, le ralentissement de la macroéconomie. Et donc du coup, forcément, quand des personnes très riches commencent à perdre de l'argent, elles coupent toujours leurs poches les plus risquées. en premier, parce qu'ils ont commencé à perdre en bourse, ils ont commencé à perdre en IMO, ils ont commencé à perdre en oblig, et donc ils se disent, bah, réduisons la voilure et on va couper dans les fonds de risque les startups. Et donc, vu que les LPs ont beaucoup moins d'argent à investir, les VC qui lèvent leur argent auprès des LPs, hein, limited partners, donc c'est les fonds de pension, c'est les personnes qui sont très riches, les industriels, on investit moins dans les startups parce qu'il y a plus de visibilité. Et donc, malgré qu'ils aient de l'argent dans les caisses, les VC ont levé le stylo, on appelle ça. Donc, c'est un winter, un hiver du financement. Et alors, est-ce que j'ai créé Blast pour aider les startups à ce moment-là? Ce serait exagéré. Je dirais plutôt que j'ai vu une opportunité et que c'est dans les crises qu'il faut investir. Donc, les grosses richesses se sont toujours créées pendant les guerres ou pendant les crises, parce qu'en réalité, les prix tombent et donc tu peux faire des affaires exceptionnelles. Ça s'est vu dans l'immobilier à Miami quand il y a eu les grosses crises. Ça s'est vu dans la bourse quand tout s'effondre. Mais tu rachètes du Netflix ou des actions solides, Air Liquide et compagnie, t'es à peu près tranquille. Tu sais que dans un an, deux ans, quand tu auras un retour de cycle, cycle haussier, bon, bah, tu seras assez safe sur tes gains. C'est la même chose dans les montres, hein. Les montres, parfois, elles montent très haut et puis ça rebaisse. Bon, bah, c'est quand ça baisse qu'il faut acheter. Mais malheureusement, l'humain a plutôt tendance à faire l'inverse. C'est-à-dire que comme le Web 3, quand il y a eu une période folle avec n'importe quel token qui se lançait en pré-ICO, les gens se battaient pour pouvoir rentrer, les gens se battaient pour acheter du Bitcoin quand il était à 70, et bizarrement, quand il est à 20, plus personne ne veut en acheter. Donc, il y a quand même un instinct grégaire dans le monde amateur de la finance qui est terrible, et c'est pour ça que c'est très bien que des podcasts comme le vôtre abordent ces sujets, parce que les échos en parlaient encore la semaine dernière. Il y a très peu de Français qui sont capables de comprendre des notions extrêmement basiques comme les taux d'inflation, les taux d'intérêt, et je pense qu'on a un rôle à jouer tous autant qu'on est pour essayer d'éduquer les personnes. Et pour revenir à ta question, Blast, on a vraiment de la chance, et c'est ce que j'explique souvent aux membres. On arrive dans une période où personne ne veut investir, donc on est les seuls à avoir 100 millions à déployer en 12 mois. Donc toutes les startups viennent vers nous parce qu'elles savent qu'on est quasiment les seuls financeurs de l'écosystème, et surtout on a la main sur la négociation. Que ce soit les termes juridiques, et on va en parler tout à l'heure, j'ai l'impression, mais aussi des valorisations. Puisque forcément, une startup qui faisait 1 million d'euros de chiffre l'année dernière, ou il y a deux ans, elle se valorisait 20 millions. Maintenant, si on lui dit, bah, écoute, nous on valorise à 6 millions, mais au moins t'as l'argent demain, ils sont contents, tu vois. Ouais. Donc ça nous permet de rentrer très bas et de pouvoir espérer que quand le cycle haussier reviendra, on pourra faire de belles plus-values, parce que j'ai l'impression que les VC, mais les financiers de manière générale, n'apprennent pas de leurs échecs et repartent dans des FOMO incroyables à la moindre occasion. Et donc, dès que le cycle haussier va revenir, je pense qu'on reverra des valorisations complètement folles. C'est le cas avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on parle de valorisation à x100, x500 le chiffre d'affaires. C'est complètement lunaire, alors qu'en Web3, ces erreurs ont été faites il y a même pas deux ans, et toutes les boîtes Web3 dans lesquelles on a investi, moi le premier, sont en train de s'effondrer, et on avait payé des valos complètement délirantes parce qu'on avait le FOMO du sujet qui était hot et qu'il fallait pas louper. Et aujourd'hui, les gens refont la même chose avec l'intelligence artificielle. Donc encore une fois, si je peux donner un conseil, c'est plutôt de se positionner quand tout le monde a peur, plutôt que quand tout le monde est super chaud d'investir. C'est Warren Buffett qui disait... quand mon chauffeur de taxi me parle,
c'est trop tard.
Et que c'est le moment de la vendre. Tu vois, c'est que tout s'est arrivé. C'est comme quand Nabila, à l'époque, parlait du Bitcoin. Quoi. Tu vois, quand Nabila parle d'un truc, faut vendre. Tu vois, c'est parce que c'est trop grand public. Ouais. Et il faut pas se voiler la face. Ceux qui font de l'argent, c'est ceux qui sont off-market. C'est comme dans l'immobilier. Tu peux trouver des bons coups sur Se Loger ou Le Bon Coin. Mais les très, très, très bons coups, c'est ils sont jamais online. Parce qu'en fait, avant même de prendre une photo, il est déjà vendu parce que tout le monde a eu le mot dans le milieu qui est très fermé.
Et donc, justement, pour ça, je publie tous les dimanches une newsletter. Je crois en plus que tu reçois et que tu lis. Ouais. Tu fais partie des lecteurs les plus assidus pour décortiquer toutes ces infos, que ça arrive en premier sur votre mail avant que d'ailleurs les échos en parlent ou d'autres en parlent. Est-ce que Ariane, t'avais une autre question là-dessus? On passe directement sur vraiment le marché, les fonds, les club deals.
Un truc pour rebondir sur les VC. On dit souvent que je prends l'exemple bateau de Sequoia. Ils investissent dans 100 boîtes et ils espèrent qu'il y a un Uber. Est-ce que Blast, c'est ça, ou je sens un truc un peu différent dans la mentalité, mais du coup, si tu peux détailler, ça m'intéresse.
Très intéressante ta question. Effectivement, le modèle d'un VC, ça marche comment? Admettons, c'est un fonds de 100 millions. Donc, ils ont 100 millions à déployer et ils font 10 investissements. Donc, 10 fois 10 millions. Leur stratégie, c'est de dire, et c'est véridique, hein, ils fonctionnent tous comme ça, chaque investissement doit pouvoir racheter mon fonds. Donc, un investissement de 10 millions doit pouvoir à minima lui rapporter 100 millions, la taille totale du fonds. Si ce n'est pas le cas, il n'investit pas. Et ils vont viser effectivement sur 10 investissements, une ou deux très grosses réussites qui vont compenser tous les autres échecs. Moi, c'est un modèle que je n'aime pas du tout parce qu'en réalité, si on essaie de financer des licornes, il y en a entre 20 et 30 en France. Sur les 20 ou 30, en réalité, il y en a peut-être 10 qui sont des vraies licornes qui envoient du chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'on ne soutient pas le vrai entrepreneuriat français. Et en fait, je pense qu'il faut pas avoir honte de soutenir des entrepreneurs qui te disent « Moi, mon but, c'est de vendre ma boîte 20 millions, 30 millions. » Parce qu'en réalité, si tu rentres à une bonne valo au début, bah tu peux faire un fois 10, tu peux faire un fois 5. Et je préfère multiplier, moi, c'est comme ça que je me suis enrichi, des fois 5, fois 7, fois 10, plutôt que d'espérer trouver le Uber ou le Tesla qui, au final, arrive une fois tous les 10 ans. C'est pas ma vision d'entrepreneuriat. Je rencontre tous les jours des gens passionnés et parfois je sais que je vais pas forcément faire un énorme multiple, mais j'investis quand même parce que quelque part je soutiens un humain qui a un rêve, qui va recruter des gens, et cette personne-là bah va en parler autour d'elle et peut-être qu'elle va me ramener un bon dossier. Et en fait, je crois beaucoup au karma, c'est-à-dire que si tu fais du bien autour de toi, généralement les gens s'en souviennent, et c'est ce qui me permet aussi d'avoir des super dossiers, parce que quand ils viennent me dire est-ce que t'es meilleur que l'autre term sheet qu'on me propose, donc on est trop fond, je dis écoute, voilà les 70 mails des fondateurs où j'investis, appelle celui que tu veux. Et en fait, quand il appelle au hasard et que le mec dit non, Anthony nous a vraiment aidé, il était là dans les mauvais moments, même quand c'était pas en sa faveur, il nous a défendu auprès de l'acheteur, etc. Tu te crées un personnage, tu te crées quelque chose autour de toi. Blast, vraiment, pour recentrer sur ta question, nous, si on fait 10 investissements, le but, c'est qu'il y en ait au moins 6 ou 7 qui sortent. Et je trouve ça beaucoup plus excitant de se dire, j'ai 10 boîtes et les 6 ou 7 vont faire fois 3, fois 4, fois 10, mais de manière beaucoup plus safe, plutôt que d'aller parier sur un gars, et vraiment, j'en vois régulièrement, qui débarque avec 3 slides et qui te disent, je suis un génie, je vais révolutionner le secteur, par contre, ma valo, c'est 10 millions. Et donc, les VC, ils sont chauds, rentrent, et ça crée des bulles complètement illogiques où il n'y a pas de fondamentaux. Et en fait, ce sont les petits entrepreneurs besogneux qui en sont les victimes. Typiquement, qui est mort pendant le Covid? Les petits besogneux. Les grosses licornes qui avaient levé 200 millions et racheté des boîtes pour donner l'impression qu'elles avaient du chiffre d'affaires. Mais les petites boîtes qui n'avaient pas qui avaient pas d'oseille sur le compte, ben, elles mouraient. Et c'est pas normal, parce qu'en réalité, l'entrepreneuriat en France ne sera un succès que s'il y a plein de gens qui réussissent. Si t'as 30 gars qui ont fait Polytechnique ou HEC, qui ont réussi à faire des licornes parce qu'ils ont le bon réseau, qui sont connectés, bah ça donne pas envie à Madame Michu qui est à Jonzac, parce que Madame Michu, elle va regarder le truc, elle va se dire « Ok, j'ai pas fait Polytechnique, j'ai pas de réseau, je serai jamais capable de lever 300 millions, ça sert à rien que j'essaie. » Alors qu'en réalité, il y a plein de beaux succès au quotidien, et c'est pour ça que je vais souvent en province faire des conférences, parler avec les gens, parce que parfois je vois des métiers basiques, mais les mecs ou les nanas, elles ont délivré et elles font plus de chiffres que la plupart des startups que je croise au quotidien dans leurs rendez-vous un peu prétentieux, tu sais, à Paris.
Ouais. Du coup, ta strat, finalement, c'est la même que celle que de Xavier avec Kima, qui est gérée par Jean, faire le plus de deals pour finalement avoir faire une loi de Pareto, quoi. C'est quoi là, du coup, qu'est-ce que c'est un fonds d'investissement? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de fonds d'investissement. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence avec un club deal? Pourquoi aujourd'hui tu nous dis que on appelle des club deals et pas des fonds? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi un peu tout ça?
Blast, c'est un club. Donc Blast, c'est un club. Il y a des membres qui viennent investir à mes côtés, mais ils ont le choix de rentrer dans les deals qui leur plaisent. Nous, on va en proposer une quarantaine par an, et s'ils veulent en faire que 5 ou 10, ils ont la possibilité. Une fois qu'un deal leur plaît, on va créer ce qu'on appelle un SPV, donc Special Purpose Vehicle. C'est une société qui a un holding et qui va concentrer tous les investisseurs particuliers qui vont rentrer dans cette holding, et cette holding va rentrer dans la startup. Donc ça, c'est un club deal. C'est-à-dire qu'on se met à plusieurs investisseurs, plusieurs business angels, et on investit dans la même startup pour avoir plus de poids. Le fonds d'investissement, c'est différent. Le fonds d'investissement, c'est géré par des professionnels de la finance. Eux, leur métier, c'est d'aller lever des fonds auprès de LPs, Limited Partners. Donc là, c'est des tickets à minimum 300 000, 400 000, et ils vont lever des fonds compris entre 30 et 100 millions. On va dire en France, c'est un peu la fourchette classique. Et là, les VC, donc les Managing Partners, les investisseurs du fonds d'investissement, font ce qu'ils veulent avec l'argent. Ils prennent des management fees, donc ils prennent en général entre 2 et 3% par an de management fees. Donc s'ils lèvent 100 millions, ils se prennent 2-3 millions dans les fouilles. Et ils vont investir l'argent pendant 4-5 ans. En général, tu déploies l'argent sur 4-5 ans. Et ils ont pas de reporting à faire plus poussé que ça, parce qu'au final, les LPs savent très bien qu'il y a un cycle de 10 ans pour récupérer son argent dans les startups. Et donc, ben, rendez-vous dans 10 ans pour voir si ça a bien fonctionné. J'exagère un peu, ils ont évidemment des reporting annuels pour voir les performances, les valorisations, on va dire, théoriques, parce que la valorisation théorique ne veut rien dire, à mon sens, hein. Il y a beaucoup de boîtes qui sont valorisées 200, 300, 400 millions. La seule valeur réelle, c'est combien quelqu'un va t'acheter. Et c'est pour ça qu'on voit que toutes les startups quasiment qui IPO, donc qui font des introductions en bourse, voient leur valeur chuter dans les 2-3 ans qui suivent, parce que les valorisations que sont prêts à donner les VC sont très loin de la réalité versus le marché concret.
Hyper intéressant. Aujourd'hui, pourquoi justement les VC on levait le stylo, pourquoi ils signent plus, pourquoi on fait appel à un club deal plus qu'à un VC pour faire sa levée?
On a beaucoup plus, nous, de liberté pour investir, parce que c'est l'argent du particulier. Donc le particulier, lui, il a envie de profiter du trou d'air, et il a envie de rentrer aux meilleures valorisations. Donc il n'a de compte à rendre qu'envers lui-même. Donc c'est beaucoup plus simple de motiver un business angel d'investir qu'un fonds d'investissement, parce que le fonds d'investissement, c'est un peu de la politique, c'est-à-dire qu'il doit rendre des comptes aux LPs. Et si c'est le seul à investir, c'est toujours la même chose, hein. C'est l'instinct grégaire, c'est-à-dire que si plus personne n'investit, personne n'ose être le premier à investir, alors même qu'ils sont assis sur des montagnes de cash, hein, ce qu'on appelle la dry powder. Dry powder, c'est tout l'argent qui est disponible, mais qui n'est pas envoyé. Et cet argent qui s'accumule du coup au fil des ans va devoir être placé à un moment ou à un autre. Et c'est pour ça que je suis très confiant sur les 2 ans à venir, parce que c'est comme un barrage. Il y a plein d'eau qui s'accumule, sauf que leur fonds a une durée limitée. Et ils ont 5 ans pour investir. Donc, ils peuvent ne pas investir 1 an, 2 ans, 3 ans, mais au bout d'un moment, il va falloir qu'ils crachent leur oseille. Et donc, comme il va falloir qu'ils investissent beaucoup pour finir leur fonds, on va repartir dans le même schéma qu'avant. Donc voilà, le fonds, c'est politique, il veut pas prendre de risques et il peut pas justifier à ses gros investisseurs, les LPs, je suis le seul à me positionner sur des deals, j'ai zéro visibilité, mais je pense que c'est le moment. Donc vraiment là, on est dans le timing parfait pour les business angels, parce qu'on n'a pas de concurrence, et ce sera évidemment beaucoup plus dur de voir des bonnes valorisations quand les VC vont revenir dans la course, parce qu'un VC... lui, pour payer 10 millions de valo ou 15 millions, ça lui change pas grand-chose, parce que lui gagne du caride. Donc, il va gagner 20% de la plus-value et il doit déployer des gros montants. Donc, il n'a pas le temps de rentrer dans de la négociation hyper poussée. Alors que nous, on a une thèse qui est plutôt inverse, c'est de dire faire une bonne vente, c'est avant tout bien acheter. C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu veux acheter et vendre une voiture. Ta voiture, t'as beau la vendre à un bon prix, si tu l'as très mal achetée au début, ta plus-value, elle est naze. Mais si tu l'as très bien achetée au début, ça te fait un écart, un delta qui est assez élevé. Donc nous, c'est ce qu'on fait. On se concentre sur le prix d'entrée. Évidemment, on se concentre aussi sur l'avenir et la valorisation potentielle de la boîte, la taille du marché, la scalabilité, la marge de progression des fondateurs. Mais l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur des startups qui font du chiffre d'affaires et qui sont capables d'atteindre de la rentabilité rapidement. On leur demande pas forcément d'être rentable quand nous on investit, mais quand on regarde le BP, le business plan, donc même le business model, on veut que ça puisse marcher mathématiquement. Et parfois, ça paraît absurde, mais c'est une réalité. Il y a des start-upers, tu leur dis, mais t'as conscience que tu ne pourras jamais gagner d'argent parce que ton produit, tu le vends moins cher que ce qui te coûte. Ils disent, oui, mais tu verras, dans 5 ans, je fais plus de volume ou je rajouterai un produit. Ça ne fonctionne plus. Tu pouvais lever de l'argent comme ça il y a 3 ans. Aujourd'hui, non, on a besoin d'avoir des metrics qui sont solides. On a besoin d'avoir des KPIs. On a besoin d'avoir de la preuve de traction. Et c'est pour ça que chez Blast, sur les 20 premiers dossiers qu'on a fait, la plupart faisaient au moins 500 000 euros de chiffre d'affaires.
Tu me fais la transition sans qu'on ait rien à dire. C'est absolument parfait. Du coup, pour passer très concrètement au niveau du fonctionnement d'un club deal, d'abord en externe justement par rapport aux startups, je pense que tu l'as vu dans le brief, j'ai des petites questions par rapport au term sheet, on va peut-être pas foncer là-dedans, mais déjà, est-ce que selon ta philosophie de aider justement les fondateurs, mais aussi permettre à des membres du Blast d'investir en startup à des conditions avantageuses, à un moment où ça vaut le coup de le faire, Est-ce que tu ressens justement une tension dans la construction de ces conditions d'investissement, dans la négo qu'il y a à faire après avec les startups? Est-ce que ça varie de startup en startup ou est-ce que vous arrivez telle la BNP, le poing sur la table avec votre term sheet?
C'est vrai que c'est une position particulière parce que je suis à la fois entrepreneur et investisseur. Et donc, dès le début de la négociation avec les startups, je leur explique, je suis entrepreneur. Donc, je te comprends et je suis pas là pour te voler. Et je suis pas là pour passer en force. Je serai toujours du côté de l'entrepreneur. Et s'il a un problème un jour avec des investisseurs dans des tours suivants, je serai de son côté parce que j'ai été trop frustré dans mes propres expériences, dans des boîtes où j'ai investi, de voir à quel point des investisseurs qui ne sont absolument pas dans l'opérationnel veulent venir donner des conseils alors qu'ils ne connaissent pas la verticale et créent des tensions tellement fortes que ça détruit certaines boîtes. Moi, je leur explique que je serai toujours de leur côté. Pour autant, j'ai un rôle auprès de mes membres qui est de trouver les meilleurs deals possibles dans les meilleures conditions. Donc, je serai toujours juste d'un côté comme de l'autre et il faut réussir à être assez équilibré pour que tout le monde soit content. C'est-à-dire que les membres doivent avoir les meilleures conditions du marché, bien mieux que s'ils avaient voulu investir seuls. La plupart du temps, ils auraient même pas pu investir, mais admettons, ils auraient pu. On a, nous, des meilleures conditions parce qu'on a plus de poids. Donc, quand t'arrives et que tu dis, moi, je peux te mettre 5 millions sur la table, t'as plus de poids qu'un BA qui dit, je peux t'en mettre 20 000, quoi. Ce qui est tout à fait logique. Mais il faut aussi être juste avec l'entrepreneur parce que si tu le défonces, déjà, il a plus confiance en toi et il refusera de travailler avec toi. Et si jamais il arrive à signer parce qu'il a pas le choix, il va avoir une rancœur envers toi et il peut se démotiver s'il n'est pas assez incentivé. Donc, nous, on a vraiment des term sheets qui sont assez classiques. On utilise toujours les mêmes. Comme ça, ça nous fait une base de travail sans perdre de temps. On peut adapter au cas par cas, si tu veux, certaines clauses parce qu'il y a une condition particulière. Typiquement, nous, on met une exclusivité. C'est-à-dire qu'un fondateur, on parie sur lui avant toute chose quand on fait du early stage, donc au tout début de l'aventure, il y a très peu de chiffres, on parie sur une énergie, on parie sur une vision, sur une capacité de travail, sur aussi un feeling, parce que je me pose souvent la question, est-ce que je m'entends bien avec cette personne, est-ce que j'ai envie de passer du temps, de prendre des cafés avec elle, parce qu'en réalité on sait qu'il va nous appeler, qu'on va faire des boards, il faut que ce soit fun. Et tu vois, trop souvent les entrepreneurs oublient qu'il faut pas être trop formel avec des BA, il faut aussi donner envie de travailler, parce que c'est une vraie relation d'homme à homme. Je vais pas aller jusqu'à dire qu'il faut qu'on devienne ami, parce que ce serait exagéré, mais en tout cas il faut qu'on s'entende bien, qu'on se respecte et qu'il y ait un échange qui soit possible avec un entrepreneur qui a une vision, donc tu vois, qui ne change pas d'avis toutes les deux minutes, mais qui est aussi capable de prendre le feedback. Donc tu vois, c'est comme tout, c'est toujours un équilibre. Et l'exclusivité, pour y revenir, normalement, elle est dans tous nos pactes, c'est-à-dire qu'un entrepreneur, il peut pas monter une autre boîte quand nous, on a investi chez lui, ou il peut pas détenir plus de 20% dans une boîte alors qu'il est fondateur de sa startup. Mais si exceptionnellement, il a déjà lancé un business qui tourne tout seul, ou ça nous est arrivé là il y a pas longtemps, en fait, il a 20% d'un restaurant qu'un pote a lancé, on peut faire une exception et lui dire, voilà, on va faire une liste exhaustive des business où t'es déjà, et on signe. Donc, évidemment, c'est malléable en fonction des circonstances, mais on essaie toujours quand même d'avoir le même pacte actionnaire, la même term sheet, dans l'intérêt de la startup aussi. C'est que nous, on a une promesse qui est de donner l'argent très vite. Donc, tu viens nous voir, un mois et demi après, t'as l'argent. Et ça, c'est quelque chose de génial pour l'entrepreneur, mais ça veut dire que ça oblige un process qui est assez automatisé, assez militaire, de manière à pouvoir aller le plus vite possible.
Deux choses. Déjà, pour nos chers auditeurs, si ça vous intéresse de voir une term sheet, allez sur le site de Galion. Vous pouvez télécharger des templates de term sheet et c'est super intéressant, même quand tu bosses pas dans le VC ou quoi, pour voir à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne. Et t'as beaucoup parlé donc des succès en soi et du fait que x3, x5, x7, c'est un succès. Mais il y a personnellement une clause qui m'a traumatisée parce que j'ai bossé dessus en stage et c'est une clause horrible qui justement s'attaque au cas inverse, au cas où justement tu fais un nouveau round de financement et la valo a baissé. C'est une clause, pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle le ratchet et qui est en général la cible de tous les articles écrits sur le VC parce que ça peut être une clause très prédatrice justement parce qu'en fait c'est une clause qui justement accorde la priorité sur la valo soit justement que à l'investisseur, soit qui laisse une partie des profits au fondateur. Et donc, si tu peux nous en parler, ça se passe comment ça chez Blast?
Alors nous, c'est très simple, on n'a pas mis de clause de ratchet et toutes les startups chez qui on a investi pourront le confirmer, parce que effectivement, c'est une clause qui fait trop mal pour l'expliquer, même si tu l'as bien fait en deux mots. C'est-à-dire que si vous avez levé à 10 millions au premier tour et qu'ensuite vous downroundez, donc faites une valo plus basse au tour d'après à 5 millions, les investisseurs qui sont rentrés à 10 vont récupérer des parts pour moyenner leur prix d'entrée et se retrouver au même prix que les nouveaux. Moi, je pars du principe que quand tu investis chez un entrepreneur, tu es dans le même bateau. Et c'est quelque chose que je vends et ça nous permet d'être très alignés. Personne n'est au-dessus, personne n'est en dessous. C'est-à-dire que l'entrepreneur n'est pas au-dessus de l'investisseur et l'investisseur n'est pas au-dessus de l'entrepreneur. On est tous dans la même direction et on doit serrer les coudes quand ça va mal. Et un bon investisseur, tu le reconnais quand ça va mal. Parce que quand tout va bien, moi ça m'est arrivé chez Feed, on faisait 2 millions, 7 millions, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires les 3 premières années, on va aller plus de 70 millions au bout de 2 ans, on avait levé 40 millions, on était les premiers à faire du D2C, on va dire, et à lever autant en France. Quand ça a été plus compliqué que le Covid, ça s'est tendu. Et donc les gens, à un moment, je marchais sur l'eau, tu vois, je pouvais arriver n'importe où, les VC applaudissaient. Et après, tu vois, j'étais mal vu parce que on avait divisé par deux notre chiffre d'affaires pendant le Covid, puisqu'évidemment, tous les Franprix étaient fermés, les Monoprix, etc. Donc, le bon VC ou le bon investisseur va te soutenir quand c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on a enlevé ces clauses, nous, de ratchet, parce que c'est un bordel à gérer, en plus, pas possible. Surtout quand tu as des SPV, ça veut dire qu'il faut que tout le monde puisse profiter de la clause. Enfin, c'est un bordel. On a expliqué aux entrepreneurs qu'on leur l'a volontairement pour faire en sorte que ce soit pas agressif pour eux. Il y a d'autres clauses qu'on met, tu vois, des droits de sortie, des préférés, des trucs comme ça qui nous semblent plus logiques. Parce que là, pour le coup, je trouve que quelqu'un qui a mis de l'argent dans une boîte, c'est logique qu'il le récupère en priorité. Pour autant, on fait vraiment des term sheets qui sont founder friendly. On reste en early stage. On n'a pas envie de faire quelque chose qui fait 200 pages. Moi, avec Pepsi, j'ai un pacte, il fait 200 pages. Le problème, c'est qu'en fait, dès que tu veux faire un truc,
Ça devient
si tu le lis
compliqué.
pas, non, mais moi, je suis en breach sur 40 articles. Tu vois, je pense que je suis en bad liver. C'est-à-dire que, en fait, il y a tellement de trucs que, même quand j'achète un truc à 10 000 euros pour la boîte, il aurait fallu que j'envoie un mail avant. Et tu t'en sors plus et tu te crées une situation qui est vraiment délicate, c'est que tu donnes des billes aux uns ou aux autres pour rentrer dans des conflits juridiques terribles. Et je pense que le pacte actionnaire doit simplement servir à encadrer et qu'en réalité, nous, sur les 70 boîtes où j'ai investi, il n'y a pas une seule fois où on a voté une décision en board. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu besoin de voter sur quelque chose de très formel en disant nous, on t'interdit de. Je dis souvent que l'entrepreneur doit prendre la décision, mais doit être capable d'écouter et d'accepter le ping-pong, l'échange. Et quand un entrepreneur, ça m'arrive parfois, a une idée que je pense très mauvaise, je lui dis, écoute, je te dis pas que je t'interdis de la faire, même si j'ai le pouvoir de te l'interdire, mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai déjà vu ce cas-là dans 20 startups, parce que c'est toujours les mêmes erreurs hein, que tu fais, et pourquoi ça s'est toujours mal fini. Donc à la fin, tu prendras la décision, mais vraiment, je te le déconseille. Et en fait, quand il voit que t'es pas là pour l'interdire, pour lui imposer une décision, mais que t'es là pour essayer d'échanger, la plupart du temps, de lui-même, il se dit, bon, bah attends, c'est rien que je fasse la forte tête, je le mets en relation avec les 20 founders qui ont fait la même connerie, et il en arrive à la même décision. Mais moi aussi, ça peut m'arriver qu'un investisseur veuille tellement m'imposer un truc de force, que je dis, ben, je vais pas bouger. Je vais garder ma position, mais juste pour le faire chier, quoi. Donc, vraiment, je pense que les bons investisseurs savent écouter les besoins des entrepreneurs et adapter les clauses juridiques qui vont bien.
Et justement, tu as parlé un peu des actions de préférence. Toi, tu mets les actions de préférence dans le SPV et en plus dans le pacte d'actionnaires ou pas?
Ouais, on met alors dans le SPV, il n'y a pas de pref, c'est-à-dire que si tu veux vendre tes parts, tu peux le faire assez facilement parce que nous, on veut lancer un marché secondaire justement où les membres peuvent vendre leurs parts quand ils veulent. Donc, on leur laisse une max liberté à nos membres. Pour autant, le SPV a une clause de préférence vis-à-vis de la startup. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, admettons, on a investi 10 millions d'euros dans une boîte. Bon, disons 1 million sera plus réel, mais plus réaliste. On a investi 1 million d'euros dans une boîte. Malheureusement, c'est un échec et la boîte se revend 500 000 euros 3 ans après. Eh ben, c'est les investisseurs qui sont prioritaires pour récupérer cet argent et ça se fait pas au prorata. C'est-à-dire que même si on a 25% de la boîte, on ne prendra pas 25% de 500 000, on prendra 100% de 500 000. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on met quand même une petite partie pour le fondateur de manière à ce que ce soit pas punitif et qu'il ait gagné un petit peu d'argent au passage. Mais ça me semble tout à fait logique qu'un fondateur qui n'a pas été capable de mener sa société jusqu'à une réussite, ben les investisseurs puissent quand même en récupérer une partie. Parce que sinon, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, admettons, on a mis 1 million chez quelqu'un, il fait une catastrophe, il revend sa boîte à 500 000 euros, bon, ben, il va quand même gagner 300 000. Bah, c'est pas logique, tu vois. Ouais. Alors qu'il y a des business angels qui ont parié leur argent. Encore une fois, ça fait quand même toute la différence. Hein. L'argent, on le sait tous, c'est dur à économiser. Quand tu as investi 100 000 balles, moi, c'est les tickets que je mets entre 50 000 et 100 000 depuis 8 ans. Quand tu perds 100 000 balles, et ça m'est arrivé 5-6 fois là, d'affilée ouais. avec le Covid et ces derniers temps, c'est compliqué. Tu le sens passer quand même, tu vois. Et donc, l'entrepreneur connaît son risque. Et s'il veut pas être assujetti à des clauses juridiques, il faut pas qu'il lève, il faut qu'il bootstrap. Donc en fait, bootstrapper, c'est ce que nous on fait avec Blast, par exemple, parce que je ne veux plus d'investisseurs pour des raisons qui me sont très personnelles. J'ai envie d'avoir de la liberté, j'ai un profil qui est compliqué à gérer pour les investisseurs, je le sais, j'ai pas envie qu'ils soient malheureux, tu vois. Donc je leur dis, en fait, ça sert à rien qu'on lève des fonds, on bootstrap, c'est-à-dire qu'on va pas forcément aussi vite que si on avait levé des fonds, mais au moins on est chez nous. Avec mon co-founder, on n'a pas besoin de faire des boards, des trucs. Quand on a besoin de se parler, on s'appelle sur WhatsApp, c'est plié au bout de 2 minutes 30. On n'a pas besoin de faire des votes, des trucs. Donc, il faut savoir où vous mettez les pieds. Il n'y a pas de hasard. Si vous levez des fonds, vous n'êtes plus chez vous. C'est-à-dire que vous invitez quelqu'un dans votre canapé et il est là et il vous regarde. Tranquille, passé. Puis le matin, tu vois, t'es en caleçon, tu vas prendre ton petit-déj, t'as pas forcément envie qu'on te regarde. Mais c'est la réalité de l'investisseur. Il est là, il peut te regarder quand il veut, il peut te demander des comptes, il peut te demander des informations en plus, il peut t'appeler. Et donc, c'est assez lourd, il faut réfléchir. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cet écosystème qui est en train de changer, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui essaient de revenir sur des fondamentaux beaucoup plus forts, à mon sens, qui sont « je fais du chiffre d'affaires ». Je vends mon produit, j'essaie de gagner de l'argent de manière à grossir step by step, mais sans être dépendant de ces fonds d'investissement qui, évidemment, eux vont chercher de la performance et c'est normal. Et nous, on travaille avec les fonds, attention, parce qu'on a l'impression que je suis anti-fonds. Mais nous, les fonds, ils aiment beaucoup travailler avec nous parce qu'on finance leur early stage et après, comme ça, on va pouvoir leur envoyer des super dossiers qui ont fait des bons chiffres. Donc, chaque maillon de la chaîne est nécessaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un fonds d'investissement, faut pas vous voiler la face. Quand il a mis 10 millions ou 15 millions chez vous, il veut faire x10, x20, x30. Pour que ça puisse être le cas, il va vous pousser à recruter, il va vous pousser à investir plus, parce qu'il n'a aucun intérêt à ce que simplement vous stagniez dans votre chiffre d'affaires, même si vous lui expliquez que vous faites un meilleur EBITDA, lui s'en fout. Ce qu'il veut, c'est du gros chiffre d'affaires, parce que c'est sur le gros chiffre d'affaires que vous pourrez valoriser votre société. Et donc, bon, bah, vous n'avez pas forcément une liberté sur les décisions. Avec une pression continue des fonds, vous avez toujours envie de faire plus. Et parfois, on oublie qu'un entrepreneur doit avant tout penser local, réussir à travailler local et pas tout de suite se projeter, comme on l'entend trop souvent, worldwide, il faut ouvrir 12 pays en même temps, prendre des country launchers, vite aller aux US parce que c'est un gros marché. La réalité, c'est qu'en France, on a déjà beaucoup d'argent à gagner. Il y a 65 millions de consommateurs. Je dis pas que c'est un marché qui n'est pas fini parce que comme chaque zone, il y a un nombre limité de consommateurs. Pour autant, vous pouvez assez facilement aller faire 20, 30, 40 millions de CA dans votre pays domestique. Et c'est déjà une belle preuve de marché qui vous permettra par la suite de recruter des gens pour aller plus loin.
Sur Blast, t'as levé combien de fois? T'as levé une fois?
Parce Blast, que tu veux. On n'a jamais levé.
Feed, je veux dire.
Feed, on a levé. Non, plusieurs fois, on a fait 500 000 euros avec des business angels. 3 millions avec Utopia Otium, qui est le fonds de Pierre-Édouard Sterrin, ouais. avec Kima Ventures de Jean et d'autres BA. Après, on a levé 15 millions avec Alven.
Ouais.
Et on a relevé 15 millions avec Pepsi.
Et pourquoi tu t'as levé avec Blast? Pourquoi t'as levé avec Feed?
Parce que Feed, c'était un business de D2C, donc direct to consumer. C'était la grande mode à l'époque. En 2016, il y a eu de belles réussites aux États-Unis qui ont laissé entendre aux fonds d'investissement que c'était quelque chose de très scalable. La réalité, c'est que c'était beaucoup plus compliqué parce que c'est un produit de supply chain, c'est un produit de centimier. Nous, quand on vend une barre de protéines ou une barre repas, ça coûte 3 euros. Il faut en vendre énormément pour faire de gros chiffres d'affaires. Et surtout, il n'y a pas de récurrence. C'est-à-dire que contrairement à un business de SaaS, donc software as a service, où tu vas vendre en B2B, une fois que tu as cloqué une entreprise, elle va garder ton produit pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, t'as pas besoin de lui reparler. Nous, chaque mois, fallait reconvaincre le consommateur de racheter du feed ou aller chercher de nouveaux clients. Et ça demande beaucoup de marketing. Et à un moment, on dépensait 1 million par mois en marketing, en télé, en Facebook Ads, pour avoir un reach qui soit colossal et grossir extrêmement vite. Ce qu'on a réussi à faire très bien au début, puisque on a fait 2 millions la première année, 7 millions la deuxième, 10 millions la troisième. Sauf qu'en fait, bon, le Covid est arrivé, donc en plus, ça a évidemment changé la donne, mais on a observé que nos cohortes financières n'étaient pas rentables. Les cohortes, c'est typiquement combien ça te coûte pour faire rentrer un client en janvier, et est-ce que en novembre qui suit, il est toujours consommateur? Et la réalité, c'est qu'on achetait en fait des clients avec un coût d'acquisition qui était très élevé et qui n'était pas forcément des early adopters. C'est-à-dire qu'au début, tu te concentres sur tes main customers les plus forts, les plus ambassadeurs. C'est des sportifs, c'est des gens qui comprennent le produit, ils en ont vraiment besoin, donc ils sont contents. Même s'ils aiment pas trop le goût, ils vont retenter avec un autre produit. Vraiment, tu vois, il y a cette envie de participer à une aventure. Sauf que plus tu dépenses, plus Facebook va taper large et plus ton coût d'acquisition va être élevé. Et
Exploser.
donc, tu vas aller parler à Madame Michu à Jonzac, qui, elle, c'est la première fois qu'elle mange une barre, elle n'a jamais fait de sport de sa vie. Ben, si elle n'aime pas le goût parce qu'elle n'est pas habituée à avoir ce type de consistance, elle repeatera jamais et donc elle rachètera pas. Et donc, ton coût d'acquisition étant plus haut que ton premier achat, ou en tout cas ta première vente, tu perds de l'argent sur tes clients. Et donc, on a été obligé de lever pour trouver les bons modèles, pour faire des nouveaux produits. On était 70 dans la team à un moment parce que les fonds nous poussaient à recruter un maximum. C'est sûr que bah, tu dépenses beaucoup d'argent, tu perds
Ouais.
beaucoup d'oseille. Et c'est pour ça qu'on était obligé de lever pour financer cette croissance. Et pendant le Covid, j'ai vu les limites de ce modèle. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de lever. J'ai dit, on ne lèvera plus et on va chercher de la rentabilité. Et donc là, on s'est mis en cheval de bataille. Là, c'était vraiment compliqué. On a coupé beaucoup de monde dans la team parce qu'on était beaucoup trop par rapport au volume d'affaires qu'on faisait. Et on a été récupérer notre bon sens paysan du début. Et aujourd'hui, Fidé Rentable gagne de l'argent, ce qui nous était vraiment jamais arrivé, alors qu'on investit beaucoup moins qu'à l'époque. Simplement, on a changé notre façon de penser. On essaie de faire de la notoriété organique, que ce soit par mes réseaux, que ce soit par la communication, par le mail, par l'inbound marketing. Et ça nous permet d'avoir des clients qui sont vraiment fans de la marque et qui vont durer dans le temps et donc nous faire des belles cohortes.
Pour revenir sur le Blast, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne en interne, surtout que tu es confronté à plein de réglementations. Par exemple, tu es limité à une communication externe des deals à 150 personnes, je crois. Après, faut être accrédité. Comment t'es arrivé à jongler sur tout ça? Comment t'as structuré ça et aujourd'hui, à quoi ça ressemble de l'intérieur?
Yes. Alors nous, notre agrément PSFP nous permet de parler à plus de 149 personnes sans être considéré comme de l'appel public à l'épargne. Par contre, on ne peut communiquer qu'à nos membres. C'est-à-dire que je ne peux pas faire, moi, sur mes réseaux sociaux, venez investir chez nous. Non, par contre, Blast peut envoyer à nos 3 500 membres en disant voilà le nouveau dossier, voilà les informations, faites votre choix. Donc, on a payé beaucoup de cabinets d'avocats au début parce que c'était une zone un peu grise. On était parmi les premiers, on était même les premiers à faire payer l'entrée dans un club. Donc l'AMF, avec qui on travaille main dans la main, n'avait jamais vu ça. Donc ils ont dû creuser le business, ils ont dû essayer de comprendre. Nous, on prenait du caride, alors que les autres plateformes de crowd equity prenaient que des frais. L'intégralité des plateformes, leur modèle, c'est je te prends 6% quand tu investis, quelle que soit la réussite ou non de la boîte derrière. Alors que nous, on s'est dit, on doit s'enrichir si la boîte est un succès. Donc, on va gagner de l'argent et on va gagner très bien notre vie. Si jamais on gagne, une boîte gagne 10 millions, enfin, si Blast gagne 10 millions, ben, nous, on gagnera 2 millions parce qu'on prendra 20% du bénéfice. Et donc, l'AMF a dû vraiment absorber, digérer ces informations. Au final, on peut du coup shooter un mail pour revenir vraiment sur comment ça se passe en interne. On propose un mail par semaine, enfin, un dossier par semaine. Donc, tu vas recevoir le lundi un mail avec un dossier qui est nouveau, avec toutes les informations nécessaires pour pouvoir te positionner. Donc le deck, notre analyse, une vidéo où j'explique pourquoi je veux y aller. 2 jours après, tu as un live avec les entrepreneurs et moi-même. Donc là, c'est un live de 1 heure où les entrepreneurs vont pitcher leur société pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et on va répondre à toutes les questions des membres sur Livestorm. Donc, tu peux, c'est vachement ludique, tu vois, ils peuvent mettre des réactions, ils peuvent poster dans le chat. Il y a des questions qui sont votées pour savoir lesquelles on prend en premier. Et donc, du coup, les entrepreneurs vont être challengés pendant une heure avant de rejoindre un Discord. Donc, on a un Discord qui est vraiment ultra performant. On a des échanges quotidiennement avec les membres dessus, avec plein de canaux différents. Donc, on parle de start-up, mais aussi on va parler d'immobilier. Il y a un réseau qui s'est créé entre les membres Blast et donc, ils s'organisent des dîners entre eux dans les différentes villes. Enfin, c'est vraiment génial de voir cette énergie qui émane du club. Et après, du coup, on va créer un canal par start-up et les fondateurs sont dessus pendant une semaine. Donc, pendant une semaine, ils répondent non-stop aux questions des membres qui, encore une fois, vont essayer de comprendre le business, expliquer leurs inquiétudes de manière à pouvoir se positionner ou non. Et pendant cette semaine, il y a ce qu'on appelle une période d'intention. Donc, une période d'intention, c'est tu peux aller sur notre site et dire « Moi, je veux mettre 20 000 sur ce dossier. Moi, je veux mettre 1 000. Moi, je veux mettre 3 000. » Chacun met la somme qui l'intéresse. Et à la fin de cette période d'intention, chacun reçoit un pourcentage de la levée de fonds et la possibilité de mettre X euros. Et là, immédiatement, l'argent est prélevé parce qu'on a créé des portefeuilles, des wallets de chaque personne. L'argent est prélevé dans le portefeuille du Business Angel, est envoyé sur le SPV, donc sur le compte du SPV. Le SPV rentre dans la startup. En tout et pour tout, ça prend 2 semaines pour le Business Angel. Ensuite, sur son site internet, il a vraiment tous les documents qui sont automatiquement classés, donc c'est très simple. Tu veux aller voir tes documents pour feed, par exemple. Tu vas voir le term sheet qui a été signé, tu vas voir ton bon de souscription, tu vas voir le CERFA pour tes impôts. Et évidemment, tout est fait en DocuSign automatiquement. T'as rien à faire. On a des avocats en interne qui s'occupent de tout pour ton administratif, ton juridique. Et ça te permet de manière ludique d'investir dans des startups et évidemment d'apprendre au fur et à mesure, parce qu'à chaque fois que tu fais un live d'une heure avec une startup, tu entends de nouveaux termes. En plus, on a mis en place quelque chose de super, c'est qu'il y a des key opinion leaders, donc c'est des experts sectoriels qui vont venir présenter les dossiers avec les fondateurs et expliquer pourquoi eux aussi investissent à nos côtés. Et, typiquement, Jonathan Angeloff, qui est un expert du SaaS, qui a fait Aircall, hein, donc une licorne, et Centaur, qui fait plus de 100 millions d'euros de chiffre par an, donc c'est une vraie licorne, ouais, pour le coup, investit avec nous dans des dossiers SaaS, et donc va venir expliquer aux membres quelles sont les métriques à surveiller, quels sont les rapports à bien creuser. Et donc, c'est vraiment passionnant d'avoir ces personnes. On peut citer Éric Larchevêque aussi, qui est un pro du hardware, du Web3, parce qu'on va créer en plus des rencontres Blast une fois par mois, où les membres vont pouvoir découvrir un univers d'une personne qui va expliquer son parcours, comment il a réussi, quels sont ses échecs, quels sont ses conseils. Et c'est passionnant du coup pour les membres, et on le voit parce qu'on a fait des sondages. La raison première, c'est évidemment investir à nos côtés, mais en deux, c'est se former.
Okay.
Se former, c'est-à-dire apprendre, que ce soit sur le Discord, que ce soit lors de nos lives, que ce soit lors des événements, des conférences qu'on organise. On organise des dîners, on a une loge au PSG, une loge à Roland-Garros, et donc les membres viennent se rencontrer, viennent discuter avec moi. Et se former, se créer un réseau, apprendre ce nouveau monde des startups dont on parle beaucoup, même les politiques aujourd'hui en parlent, la télé en parle avec Qui veut être mon associé, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui écrivent des livres. C'est quelque chose qui attire, mais qui est complètement obscur pour le commun des mortels. C'est-à-dire que quand tu vis en province, dans une petite ville, t'as aucun start-upper autour de toi, t'as aucun business angel autour de toi, et tout le monde te dit que tu peux t'enrichir avec les startups. Donc, il y a une frustration comme ça qui est terrible, parce que, encore une fois, malheureusement, ce sont les élites qui en profitent, parce que ça fait 10 ans que tout le monde se blinde, hein, avec les startups. Mais qui en profitent? Les gens qui ont fait Polytechnique, les gens qui ont fait HEC, les gens qui ont bon network. Et moi, mon rêve, et c'est un discours que je tiens depuis longtemps, donc on peut pas me dire que c'est par opportunisme que je le dis aujourd'hui, c'est que je voudrais qu'il y ait beaucoup plus d'horizontalité, d'égalité des chances, et que tout le monde puisse avoir la chance de s'extraire de sa condition initiale et de venir gagner de l'argent, ou en tout cas essayer de gagner de l'argent avec les startups, parce que les startups, pour moi, c'est la dernière chance pour ceux qui ne rentrent pas dans les cases. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'était pas bon à l'école, qui peut pas avoir de CDI parce qu'il a un trou dans son CV, mais qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste la possibilité de créer sa propre richesse, la possibilité de créer son propre véhicule d'enrichissement personnel, de lancer sa boîte. Et les startups, c'est pas seulement des trucs tech où on va parler d'intelligence artificielle, de Web3. Ça peut être quelqu'un qui lance une chaîne de boulangerie. Ça peut être quelqu'un qui est dans le jardinage et qui a envie de créer une boîte où tu peux trouver ton jardinier très rapidement. Donc, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-startup. Et c'est le message que je veux envoyer avec Blast, mais aussi qui veut être mon associé à l'émission qui démocratise ce monde-là au plus grand nombre.
Attends. Je me permets d'interrompre ton écoute 5 secondes pour te rappeler de t'abonner et de mettre 5 étoiles à ce podcast sur toutes tes plateformes préférées. C'est reparti.
Je pense qu'on va y revenir très vite, parce que bien sûr, c'est très intéressant, mais pour faire le lien avec la question d'avant, lors de laquelle tu nous parlais justement de feed et de l'état de la boîte quand vous aviez levé énormément, quand tu nous parlais aussi du comportement des fonds d'investissement qui doivent justement placer cet argent au bout d'un moment, est-ce que tu penses que du coup, quelque part, le fait que ce soit Blast qui investit encourage les entrepreneurs à quelque part être lean, dans le sens où ils ont accès à toutes ces ressources et à tout ce réseau, justement aussi pour peut-être moins dépenser en IMO, pour avoir des meilleurs deals sur n'importe quel SaaS que eux ils auraient besoin d'acheter. Est-ce que tu vois ça comme ça aussi, dans l'idée, on vous crache pas de l'argent, on vous force pas à engager 25 marketing managers, et au final, au long terme, ça marche mieux et on fait x5 et vous êtes rentable, quoi.
Ouais, nous, on leur met aucune pression. Et donc, très souvent, quasiment à chaque fois, pour être franc, les startups viennent nous voir avec des BP de VC. Donc, ils nous disent, là, on a fait 1 million cette année, l'année prochaine, on en fait 25. Et puis, l'année après, 70. Et en fait, je leur dis, ça, c'est un truc qui va exciter les VC. Moi, ça m'excite zéro, en fait. Parce que là, t'es en train de me raconter une histoire, je sais très bien que t'y crois pas. Moi, je préfère que tu me dises que l'année prochaine, tu fais 3 millions au lieu de 25 millions. Mais par contre, que tu les tiennes, tes 3 millions, et que tu fasses moins de dépenses. Et donc, ils me regardent, ils sont un peu sur le cul, tu vois, tous, parce qu'ils ont tellement pas ce discours chez les VC que ça les rassure et ça les soulage et ça leur enlève un poids, tu vois, des épaules. Parce qu'en fait, quand tu dis à un VC, je vais faire 25 millions et que tu sais que c'est pas possible, ok, tu vas signer ton deal, mais tu sais que t'as menti. Et sans vouloir donner de chiffres, parce qu'à mon avis, c'est très dur de mesurer, mais t'as une très grande majorité des fondeurs, moi le premier, qui ont levé des fonds en disant des choses qui s'avaient quand même très, très difficilement atteignables. Mais les VC voulaient entendre ça. Et donc, en fait, quand les VC te poussent à faire plus, moi, ça m'est arrivé quand je vais lever de l'argent avec Feed, quand je disais, voilà, je veux faire 5 millions l'année prochaine, mais c'est pas assez. Faut que tu me vendes plus parce que moi, quand je vais le passer en comité, ça va pas les intéresser. Et je disais, mais 10 alors. Tu vois, je dis. Mais c'était fou, tu vois, c'était une période. Je pense qu'on en parlera dans quelques années, qu'on dira, il y aura des reportages là-dessus. C'est qu'il y a des gens qui ont levé 100 millions, 200 millions, 300 millions, sans chiffres. J'ai vraiment des exemples autour de moi. Je vais pas donner de nom, machin, mais des mecs que je connais, qui ont, je vais pas dire escroqué, parce que les VC ont signé en sachant ce qu'il était, mais qui ont vraiment niqué le système, quoi. Tu vois, qui ont utilisé une faille du système, qui ont pris des cash-out de porc pendant ce tour, parce que tu vois, ils arrivaient à dire au fond, moi, si je vous fais lever, je veux 10, 15, 20 millions de cash-out. Et il y en a qui ont pris des tonnes comme ça,
quoi. Mais ne serait-ce dans l'IA, là, moi, j'ai vu passer des deals, il y a des trucs de ouf, hein.
Fois 100 du chiffre d'affaires. Ouais. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que la boîte ne les vaut pas. Hein. Il y a eu des belles boîtes françaises dans l'IA qui ont levé. Donc, quelque part, si on veut pouvoir faire la guerre avec les Américains, il y a besoin d'argent. Mais je dis juste attention à pas se réemballer et à ce que les VC ne gardent pas tout l'argent disponible pour quelques boîtes où tu as des stars au capital, où tu as vraiment des top founders, tu vois, qui vont récolter 70% de l'argent disponible. Parce que sinon, on coupe tous les petits entrepreneurs. Mais en fait, les petits entrepreneurs qui vont souvent échouer, mais l'investisseur est là aussi pour financer l'échec, deviendront des bons entrepreneurs. Moi, je vois, en toute modestie, Blast, je l'ai 1000 fois mieux lancé que quand j'ai fait Feed. Parce que Feed, c'était la première fois que j'avais 50, 60 personnes qui bossaient avec moi. J'étais pas un bon manager, je savais pas forcément bien déléguer. Et donc, j'ai appris sur le tas. Mais la formation que j'ai eue chez Feed, qui a coûté cher, mais la formation que j'ai eue, elle est exceptionnelle. Elle vaut toutes les écoles de commerce du monde. Donc, moi, je pense qu'il faut faire attention à pas, tu vois, se concentrer que sur les élites ou l'entre-soi qui ont certes des très beaux profils, mais qui vont cramer de l'oseille comme pas possible, mais aussi parier sur les profils qui sont différents, qui rentrent pas dans les cases. Et moi, j'ai eu des très beaux retours avec des profils qui ne séduisaient pas les fonds d'investissement parce que, on va dire, ils n'avaient pas fait de grandes écoles, ils venaient pas de grandes familles, mais c'est eux qui m'ont rapporté des petits fois 5, des petits fois 7. Sauf que quand à chaque fois tu mets 100 000 balles et que tu prends 2-3 fois 7 dans l'année, bah t'es très content.
Pour rebondir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure sur ta communication, bah, est-ce que tu dis sur ta communication le fait que tu veux plus d'horizontalité sur le patrimoine, que tout le monde ait accès au meilleur deal entre guillemets, même s'il n'y a pas le deux meilleurs deals en soi. Je crois qu'Ariane, tu avais une question là-dessus.
Oui, alors j'ai été faire mes petites recherches sur le site de Blast et ça peut paraître ridicule en soi, mais le minimum d'investissement sur Blast c'est donc 1 000. Mais quelque part, la participation, le membership, a lui aussi un coût. Et donc, dans cette mesure-là, quelque part, les 1 000 que tu investis, c'est facile de comprendre le fait que bah, forcément, il faut mettre un minimum pour avoir de la crédibilité en tant que membre du SPV, etc. Mais les 1 000 que je donne juste, entre guillemets, pour être membre du Blast, est-ce que j'en revois la couleur et pourquoi?
Et d'autant plus, du coup, pour aller encore un peu plus loin sur cette question, on est sur la classe d'actifs la plus risquée. Est-ce que, du coup, pour aller au bout de ta philosophie, l'idéal, ce serait pas de pousser à investir en bourse sur des trucs un peu moins risqués, type, je sais pas, du Air Liquide, du LVMH, des trucs comme ça, où on sait que ça va pas disparaître du jour au lendemain. Donc, on va pas perdre 100% de son capital, alors que là, en l'occurrence, on pourrait perdre 100% de son capital.
Super intéressant comme question. Nous, effectivement, on a décidé de mettre des memberships. C'est-à-dire que pour être membre du club, tu dois payer une adhésion. Un peu comme c'est le cas chez Soho House ou dans d'autres clubs où tu payes juste pour participer. On est les premiers à faire payer. Et donc, tout le monde nous disait, ça ne marchera jamais. Il y a plein de plateformes qui sont gratuites, etc. Sauf que les plateformes gratuites, leurs deals sont pourris et personne n'en veut. C'est les deals que tout l'écosystème
n'est pas arrivé à lever en VC,
qui part sur les crowdfunding et qui vont sur des crowdfunding. En général, c'est du savon solide ou tu vois, c'est ce genre de deal quoi. Ça fait 12 fois qu'il y a une marque de shampoing. Enfin, tu vois, c'est.
On décortique tout ça avec Adrien Chaltiel sur un épisode qui va sortir juste avant le tien, je crois. 2-3 épisodes. Je sais ce que
c'est. Et donc, du coup, en fait, ouais, c'est gratuit. Mais t'as des deals de merde qui ont très peu de chances de marcher. C'est un peu comme quand t'achètes des fruits. C'est-à-dire que tu peux acheter une mangue. Et les mangues, c'est super intéressant parce que t'as des mangues qui valent 1 euro et des mangues qui en valent 10. En fait, ouais, t'as des mangues qui valent 10 euros. Sauf qu'elle a été cueillie la veille à 300 km de chez toi. Ou alors t'as une mangue qui vaut 1 euro, mais elle a fait 3 fois le tour du monde avant d'arriver dans ton assiette et elle a pas de goût. Donc en fait, tout dépend ce que tu veux acheter et ce que tu veux comme qualité. Nous, on a décidé de faire payer aussi pour une autre raison, c'est qu'on voulait filtrer les membres. En fait, les startups, et tu l'as très justement dit, c'est une classe d'actifs extrêmement risquée. C'est-à-dire que tu ne dois pas investir plus de 10 ou 15% de ton patrimoine dans les startups. Et à côté de ça, tu dois faire quelque chose de beaucoup plus safe avec des comptes à terme, des assurances vie, de la bourse, de l'immobilier. Ça, on le répète inlassablement à nos membres. C'est-à-dire qu'on veut pas se diversifier et commencer à leur dire investissez dans la bourse parce que c'est pas là qu'on est des experts. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux que nous. Faites-le hors Blast, ça. Vous avez des conseillers, vous trouvez des solutions. Nous, on vous conseille sur les startups parce que c'est là qu'on est bon, c'est là qu'on peut créer de la valeur ajoutée. Et en fait, en demandant un membership, ça nous permet deux choses. Un, savoir que c'est des gens qui sont sérieux et qui vont vraiment investir. Parce qu'en fait, quand tu as payé 1 000 euros, c'est entre 1 000 et 10 000. Hein. Donc 1 000, tu peux investir 10 000 dans l'année. 10 000, tu peux investir 300 000 dans l'année. Quand tu as payé ton membership, ça veut dire que tu vas être sérieux et que tu vas y aller. Et nous, ça nous permet d'avoir en fait une visibilité avec notre algorithme et de savoir précisément combien on peut lever pour quelle startup. Parce que quelqu'un qui a mis ses 1 000 euros, on part du principe qu'il va investir 70% en moyenne. Donc, il va mettre 7 000 euros au long de l'année. On peut assez facilement monitorer combien il lui reste à déployer et donc combien on peut lever. C'est comme ça que je dis, on a 100 millions d'euros à investir. Parce que quand tu prends 70-80% du montant total à déployer, ça donne 100 millions. Et nous, on peut aller voir les startups en toute assurance et leur dire, moi les gars, vous trouvez 2 millions, c'est une banalité parce que regardez, j'ai encore X membres qui ont tant à déployer, je suis sûr à 100% de vous les trouver. Donc un, ça filtre et ça évite ce qui est très souvent le cas sur les autres plateformes. Quelqu'un qui arrive, qui dit j'ai 2 000 euros à investir, ok, je fais 2 fois 1 000 là,
et après,
ils se rendent pas compte que c'est trop risqué comme profil parce que en investissant que 2 000 euros, t'as de très grandes chances de perdre. Nous, on oblige, notre algorithme oblige à dispatcher à coût de 1000 euros dans différents dossiers. Donc, c'est-à-dire qu'un membre bronze, qui est le plus bas, c'est 1000 euros l'inscription et tu peux investir 10 000 euros, il va devoir faire 10 fois 1000. Ben, s'il fait 10 fois 1000, il dilue déjà très largement son risque. Et nous, on fait des KYC quand il y a des nouveaux membres qui arrivent, c'est-à-dire qu'on filtre vraiment ce qui se passe. Quand la personne nous dit, une de nos questions, c'est combien tu veux investir dans l'année? Si la personne nous dit, je veux être bronze et j'ai 3000 euros à investir, on ne prend pas. On le refuse. Parce qu'on sait pertinemment que cette personne a trop de risques de perdre son argent. Et donc, pour nous, d'ailleurs, ça ne fait même pas de sens pour lui. C'est-à-dire que s'il paye 1000 euros pour investir 3000 euros, en pourcentage, c'est beaucoup trop cher. Par contre, si tu payes 1000 euros pour investir 10 000, tu vois, bon, ben, quand tu fais tes calculs, tu sais très bien qu'avec une start-up qui va faire un multiple, tu seras tranquille et tu pourras largement retomber sur tes pattes. Mais clairement, il faut pas venir chez Blast si tu veux juste jeter un ou deux tickets. Mais c'est aussi la force du modèle. C'est-à-dire qu'on a 25 000 personnes sur liste d'attente qui veulent payer. Et c'est là que tu vois qu'en fait, c'est un peu comme Apple. T'as plein de gens qui les critiquent. Ouais, c'est trop cher. La réalité, c'est que moi, j'ai tout Apple. Parce qu'en fait, tu sors tes iPods, ils ont déjà été détectés par tes Mac, tes iPhones, tes trucs. T'as un AirTag. Là, j'en ai acheté l'autre jour pour mettre dans mes valises. Automatiquement, ça marche, c'est pratique. Ouais, tu payes cher et Blast, c'est cher. Mais par contre, l'expérience utilisateur,
elle est carrée. Est-ce que, du coup, tu as vraiment Madame Michu qui vient investir chez Blast?
Ouais, c'est incroyable. On a fait c'est le CFO qui a fait un truc de ouf, c'est en mettant un petit point sur la carte française à chaque fois qu'il y a un membre. C'est éclaté dans toute la France.
Oui, mais donc, t'en as dans toute la France, mais dans toute la France, t'as des médecins, t'as des notaires, t'as des avocats. Est-ce que c'est pas eux vraiment qui sont représentés dans Blast et pas Madame Michu qui est, caissière chez Carrefour ou qui est facteur ou j'en sais rien.
Salaire moyen.
Ouais.
Revenu moyen de Blast entre 40 et 50 000 euros par an.
Okay.
Donc, ça montre vraiment que on a réussi quelque chose de fort, c'est d'ouvrir le monde de l'investissement à ce qu'on pourrait considérer, nous, comme des petits portefeuilles. Après, ce qui est fou, et c'est vraiment une fierté pour moi, c'est qu'on a à la fois des bronzes qui vont investir 10 000 euros par an et des membres Diamond. On en a un qui a 3 passes Diamond et il met 1 million par an chez nous.
Okay.
Startup. Donc, en fait, on a vraiment des experts qui sont déjà très riches et qui nous font confiance et qui voient que nos deals, ils sont ouf puisque ils les font vérifier par leur family office, par leur conseiller en gestion de patrimoine. Donc, les mecs, c'est pas le perdreau de l'année, c'est pas des peintres. Tu vois, c'est des gars, quand tu commences à investir 1 million par an en startup, ça veut dire que tu déploies au moins 4, 5, 6 millions d'investissements sur toutes tes classes d'actifs. C'est des vrais mecs solides, ou des meufs solides, parce qu'il y a aussi pas mal de femmes, et ça aussi, c'est une fierté, parce qu'il y a très peu d'investisseurs femmes dans l'écosystème.
C'est vrai.
Il y a quelques fonds qui font genre d'en recruter, pour faire semblant, mais la réalité, c'est qu'il y en a très peu. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de dramatique.
Quel pourcentage que t'as?
J'ai plus les chiffres en tête, mais on a beaucoup de femmes et.
C'est quoi, c'est du 30% ou c'est
ouais,
un peu moins?
Ouais, c'est ça, c'est entre 20 et 30%.
Okay.
Et alors, ça paraît peu, il y a des gens qui vont dire, ah là, c'est pas 1 sur 2. Mais quand tu compares.
C'est déjà pas mal.
À l'écosystème, c'est faramineux. L'écosystème, je crois que c'est 2%. D'ailleurs, que ce soit entrepreneur ou VC, hein. Donc c'est fou. Et moi, j'ai pas mal de femmes chez qui j'ai investi et qui me disent, Anto, t'imagines pas comme c'est galère. Je pense à Edwige de Barouders, je pense à Carole de June, je pense à Justine Uto de Respire, je pense à Claire d'Arcania, je pense à Archie, enfin, j'ai vraiment plein de boîtes où il y a des femmes. Et elles doivent se battre beaucoup plus. C'est une réalité, tu vois. Et moi, je suis pas en mode féministe, machin, truc forcé. Je dis simplement que c'est une réalité. Et si Blast, on peut changer les choses, à la fois financer des femmes, mais aussi faire investir des femmes, c'est génial. Et je trouve que dans ce que j'adore, et les membres nous le remontent souvent. Et c'est marrant. Il y a 3 jours, j'étais dans un hôtel en vacances et il y a un membre Blast qui a su que je venais dans cet hôtel parce qu'un concierge l'avait dit. Enfin, bon, bref, c'était un truc de ouf. Et elle est venue avec son mari et c'est elle qui a investi et son mari, il bite rien. Et c'est elle qui explique, et elle lui explique comment ça se passe. Et donc, elle est venue avec son mari prendre l'apéro avec moi. Ça me faisait plaisir de les rencontrer. Et en plus, c'était des membres Platinum. Donc, tu vois, c'est quand même des gens qui investissent 100 000 dans l'année. Et c'était génial de voir que c'est la femme qui plaçait l'oseille du couple, tu vois. Et le mari à côté, c'est un rugbyman. Il dit, ah non, moi, j'ai pas d'oseille. De toute façon, en ce moment, c'est elle qui gère. Et tu vois, c'est aussi une manière de donner confiance aux gens parce que qu'est-ce qui manque? Souvent aux femmes ou même à certaines personnes, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, parce qu'en fait, depuis que t'as 5 ans, on t'apprend qu'une femme, elle est pas là pour parler d'oseille, tu vois. Elle est pas là et j'en parle souvent. J'ai toujours du mal avec les prénoms, mais Empower, Better,
My Better
My Better
Self,
Self,
Louise Aubry, ouais.
Louise, voilà.
Quel album.
Et on en parle souvent ensemble. Et en fait, les femmes sont pas formées à le faire. Et donc, en fait, quand depuis tout petit on te dit tu peux pas le faire, ben t'as pas envie de le faire, quoi, tu vois. Et donc du coup t'as honte. Alors qu'en fait avec Blast, nous tout est digitalisé. Donc je sais même pas moi si je parle à une femme, pas une femme. T'as les mêmes masterclass qu'on va t'offrir. T'es invité aux mêmes conférences. T'as accès aux mêmes lives. Et donc là il y a plus d'excuses, si tu veux. À toi de te former, tu le fais et t'y vas. Et donc c'est vraiment un plaisir pour nous de voir cette répartition à la fois des classes sociales. À la fois des origines, parce que tu vois plein de gens de différentes origines, et y a un mélange qui se fait qui est génial, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très forts dans le Discord de Blast et qui vont prendre des leads pour expliquer des sujets avec des amateurs qui viennent juste de débarquer, qui comprennent même pas ce que c'est qu'un term sheet. Bah t'as des mecs qui sont déjà banquiers, avocats, qui vont dire alors voilà, un term sheet ça sert à ça. Et je pense que ça ressemble, à mon sens, à ce que devrait ressembler la société, mais c'est pas du tout le cas aujourd'hui.
Pour les auditrices, si ça peut vous motiver, on parlait de motivation, il y a une étude qui est sortie en 2021, je crois, sur les hedge funds aux États-Unis. Le taux de succès des hedge funds managés par des hommes se rapproche de la probabilité parfaite, donc on est dans du 1 sur 2. Les hedge funds managés par des femmes battent la bourse à 96%.
Voilà, bravo les femmes. Non mais c'est vrai, il y a plein de trucs et moi je les vois même dans mes équipes, j'ai toujours plus recruté des femmes.
Ouais.
Donc là, je vais vraiment passer pour un féministe alors que c'est pas le cas, hein. Désolé pour tous les mecs parce que je sais que les mecs ça les saoule, ils disent ah, vas-y, nous fais chier.
Tu sais comment tu l'expliques ça?
Je l'explique que en fait moi déjà je fais pas de discrimination positive pour aucun sujet, tu vois, je trouve ça insupportable de dire je recrute une femme alors que je pense qu'elle est moins bonne, ça, je trouve ça horrible en fait, tu vois. Mais il y a cette rigueur et souvent c'est horrible à dire, mais elles ont une vengeance, une revanche à prendre. Et donc si tu veux, elles vont bosser plus qu'un mec parce que le mec il se dit je suis confort, je suis bon, alors que souvent les femmes se dévalorisent et se jugent moins bonnes que ce qu'elles sont. Et ça se voit dans les négociations de salaire d'ailleurs.
Ouais.
Il y a plein d'études qui l'ont montré. Une femme qui vaut 70K, elle pense qu'elle en vaut 55. Un homme qui vaut 70K, il pense qu'il en vaut 90. Et donc, l'homme arrive tellement sûr de lui qu'il négocie mieux. Je ne vais pas rentrer dans les clichés féministes et compagnie, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que les femmes, elles sont déterres, elles sont vraiment motivées et qu'elles se butent au travail. Et je n'ai jamais été déçu. Je pense à Gabrielle, qui est la COO de Blast. Je pense à Mélanie, qui est la CEO de Feed. C'est des machines, quoi. Donc, je trouve que c'est le rôle aussi des hommes de mettre en avant ces profils-là, que ce soit en termes d'âge, en termes de couleur, en termes de richesse, et créer un monde où tout le monde se pousse vers le haut. Ça me semble être quelque chose de magnifique. Et encore une fois, c'est mon système horizontal que je prône depuis très longtemps. Je crois plus à la verticalité. Voir des gens, tu vois, avec autant de pouvoir, mais qui sont autant déconnectés de la réalité du marché, puisque moi, j'ai cette chance de venir d'un milieu très défavorisé et d'être aujourd'hui ce que certains considéraient comme très riche. Et j'ai fait les deux étapes. Et je pense qu'il y a peu de gens en France qui ont été aussi pauvres et aussi riches. Et du coup, je suis toujours effaré de voir à quel point chaque extrême, chaque monde n'a pas conscience de l'autre. Il ne sait pas que l'autre monde existe. C'est-à-dire que mes potes très pauvres à l'époque, je leur aurais dit, tu sais, aujourd'hui, j'ai des potes qui peuvent dépenser 200 000 euros dans un jet privé juste pour faire un aller-retour à New York et aller voir leurs potes. On aurait dit, t'abuses. Tu vois, 200 000 euros, c'est pas pour lequel. Juste l'avion. Et à côté de ça, tu dis à ces mecs qui mettent 200 000 dans l'avion, tu leur dis, moi, j'ai des potes, ils peuvent pas manger à la fin du mois. Et donc, ils rationnent. Comme moi, je le faisais quand ils disent, ah, t'abuses, ok, bon, ils vont pas manger du caviar, mais ils peuvent quand même manger tous les jours. Et toi, c'est ça qui est incroyable. Et je pense que les politiciens, forcément, ils se sentent obligés soit de défendre les uns, soit les autres, alors que, à mon sens, bientôt, il faudra que tout le monde soit défendu de la même manière.
Il faudrait qu'on fasse presque un deuxième épisode là-dessus. Du coup, pour revenir au Blast, comment t'as levé les premiers euros? Tu nous as dit tout à l'heure que t'avais des personnes très très riches et des personnes de classe moyenne qui sont au sein du Blast. Comment t'es arrivé à trouver les premiers petits euros?
Ouais, bon, on a fait un drop, on a fait un peu comme Suprême.
Ouais.
Donc, on a fait un gros teasing en créant du FOMO. Donc, c'est vrai qu'on est assez bon en marketing. On a expliqué ce qu'on voulait faire. Et en fait, on a très vite compris que le produit plaisait. Donc, le produit était nouveau parce qu'il y a des gens qui disaient, ah, Blast, c'est cher. Ouais, mais si tu veux rentrer dans des bonnes startups, t'as pas le choix. Donc en fait, c'est un peu horrible, mais on a un monopole terrible. C'est-à-dire que les fonds d'investissement, ils vont te demander 200 000 euros pour investir avec eux. Ou alors, si tu veux investir en direct avec des startups, il faut que tu sois connu, parce que les fondateurs font leur course. Hein. C'est-à-dire que c'est les fondateurs qui décident qui rentre. Si t'es pas capable de lâcher des tickets à 50 000, 100 000, ils veulent pas de toi. Et même si tu as 50, 100 000 et que tu es inconnu, que t'es pas un entrepreneur, t'as pas quelque chose à apporter, les entrepreneurs n'en veulent pas. Donc, tu veux investir dans les bonnes startups, tu es obligé de passer par Blast. Ou alors, tu as les plateformes qui te vendent des shampoings, quoi. Mais si tu veux des vrais dossiers tech, tu dois venir chez Blast. Et du coup, on a vu une liste d'attente qui a grossi extrêmement vite et on a dit aux gens, voilà, le drop, il sera lundi à 19h. Vous avez une heure pour acheter vos places. Et en fait, au bout de 3 minutes, tout avait été vendu. Donc, tu vois, on avait le site qui buguait de partout parce qu'on avait trop de visiteurs. Et le premier drop a été oversouscrit en 3 minutes. On a fait un deuxième drop un mois et demi après. On a mis 2000 places, je crois, en vente. 2000 places sont vendues encore en 3 minutes. Et on a refait un dernier drop, là, je sais plus quand, il y a 3, 4 mois. Et pareil, oversouscrit. Donc, on a cette chance d'avoir un produit qui répond tellement à un besoin qu'on a dépensé 0 € de marketing.
Et t'as pas eu besoin de faire un petit tour des CGP, des family office,
Zéro.
zéro.
On n'a pas voulu parce que là, on allait commencer à travailler en B2B avec eux, c'était compliqué. Nous, ce qu'on veut, c'est aller travailler en B2C directement avec le consommateur, avec la personne, tu vois, qui a envie de s'impliquer. Et on n'avait pas envie de commencer à devoir payer des rétrocommissions au CGP qui comprend rien à ce qu'on fait en plus. Le CGP, je les connais bien parce que je leur parle souvent pour d'autres sujets perso, d'investissement. Le CGP, il veut pas s'embêter. Le CGP, il veut juste faire investir dans sa SCPI et tous les ans, il va prendre ses 3%. Le CGP, si je lui disais, moi, je peux te faire investir dans des startups, mais tes clients, il faut qu'ils choisissent une startup par semaine ou lesquelles les intéressent. Je me dis, attends, mais moi, j'ai pas envie chaque semaine de regarder les dossiers que t'envoies. Moi, je veux juste faire cracher un maximum d'argent à mes clients en une ou deux fois sans avoir toutes les semaines quelque chose à faire. Donc, le modèle n'est pas compatible avec les CGP et nous on avait plutôt envie encore une fois de créer une communauté qui soit ultra engagée parce qu'on le vend aux startups. C'est-à-dire que tout le monde est gagnant avec Blast. Les investisseurs, les membres évidemment parce qu'ils peuvent investir dans des top startups, mais les entrepreneurs sont très contents aussi parce qu'ils ont accès à un réseau et quand ils ont un problème, ils mettent sur Discord, je cherche un contact à la mairie de Paris, est-ce que quelqu'un en a? Il y a toujours quelqu'un qui travaille à la mairie de Paris. L'autre jour, il cherchait un avocat spécialisé dans un truc hyper technique. Il y avait cet avocat. Et en fait, tu peux venir piocher dans la base de membres et en plus avoir accès à cette visibilité qui est offerte puisque chaque startup avec lesquelles on lève, on leur demande un wording, un visuel, on le partage dans le Discord et les 3500 personnes le postent sur leur réseau. T'imagines quand tu as 3500 personnes qui mettent sur Insta, sur Twitter. Ça te fait un reach de malade et évidemment, moi, je le fais aussi et on commence à avoir pas mal de monde sur les réseaux, donc ça fait un apport qui est concret.
On reviendra un peu sur ce que tu me disais sur les CGP dans 2-3 minutes, mais je crois qu'Ariane avait une question un peu sur la gestion un peu du fond. Bah, du fond, justement, du club.
Et du club, tu dis justement que si on veut des bonnes startups, il faut aller chez Blast, mais est-ce que Blast, du coup, dans ce qu'on suppose être la meilleure pool de startups de tech pour l'investissement, est-ce que vous, déjà, vous ressentez une responsabilité et est-ce qu'ensuite vous le faites quelque part d'aiguiller les investisseurs au niveau des startups par rapport à leur impact? J'ai bossé en climate tech, ce genre de choses, donc c'est plus l'angle de la question. Est-ce que cette dimension est considérée pendant les pitchs, sur les groupes, etc.? Et est-ce que c'est vous, une sorte d'aiguillage que vous utilisez?
Déjà, pour commencer, j'aimerais préciser qu'on présente différents types de dossiers pour que chacun puisse créer un portfolio adapté. On harcèle les membres pour leur dire dispatchez au maximum. Si vous avez 10 000 à investir, faites 10 fois 1 000. Si vous avez 100 000 à investir, faites un maximum de tickets. On va parfois leur dire ce projet, et je pense à Weir qu'on a levé, on a levé 7 millions pour eux. Donc c'est énorme, tu vois, pour un crowdfunding. Il faut savoir que les moyennes des plateformes qui existent, elles mettent, je sais pas, 2, 3 millions dans l'année levée. Nous, c'est des montants fous, en fait, d'avoir dès la première année réussi à scaler un truc comme ça. Mais on veut leur mettre des sujets très tech comme Weir où ça va être tout ou rien. C'est-à-dire que si ça marche, c'est une billionne, c'est une licorne. Si ça marche pas, ça vaudra zéro. Mais à côté de ça, on va leur faire une boîte où on leur dit, là, je pense que ça va faire x3, x4. C'est pas un truc qui est colossal. Mais par contre, ça te sécurise versus WIR. Et donc, chacun peut adapter un petit peu son portefeuille et on leur conseille pas encore une fois parce qu'on n'est pas là pour gérer leur argent. Je leur dis, moi, en tout cas, c'est ma manière de faire. J'équilibre mon portefeuille. Je mets du très risqué. Je mets du pas risqué. Je mets du moyen risqué. Et à la fin, ça fait une tambouille qui est sympa. La thèse sur le climat. Très intéressant. Encore une fois, je vais essayer d'être très transparent parce que c'est comme ça que je fonctionne. On a un objectif principal chez Blast, c'est de fournir du rendement et de la performance. Nous, notre promesse, c'est on va essayer de vous apporter les meilleurs dossiers qui vont nous permettre d'avoir un maximum de TRI, un maximum de gains. Pour autant, je pense qu'un bon investisseur ne peut pas passer à côté de la verticale du climat parce que c'est l'avenir de l'entrepreneuriat. Et qu'aujourd'hui, une entreprise qui ne fait pas attention à son impact sur l'écosystème ne peut pas réussir, ou en tout cas n'a pas compris la vague de fond qui est en train d'arriver. Donc, sans vouloir investir dans le climat, il se trouve qu'on a fait déjà deux dossiers sur la décarbonation. Il y en a un, c'est de la banque, l'autre, c'est de la mobilité, où en gros, on peut en parler, c'est Squad Easy. Il y en a un, donc c'est pour les collaborateurs des entreprises où tu vas gagner des points en venant en vélo ou à pied à ton travail. Du coup, tu as des avantages plutôt que de prendre ta voiture. Donc, ça décarbone un maximum de... Pareil pour les sales, ils font des compétitions entre teams. Donc, tu as les sales qui avaient l'habitude de prendre la voiture. Maintenant, qui font un max de livraison en vélo avec des... Enfin, tu vois, ça va te pousser à réaliser que tu as un impact. On a investi chez Kiwi aussi, qui est une banque qui décarbone les virements et qu'à chaque fois que tu fais un virement pour acheter des matières premières à l'étranger, et ben Kiwi va prendre 15% de ses résultats pour pouvoir compenser le carbone qui a été émis. Enfin, bref, on a investi dans plein de sujets comme ça. Beaucoup de vélos, on a fait aussi deux boîtes dans les vélos parce que on pense que c'est l'avenir de déplacements, en tout cas dans les grandes villes. Vélo électrique, vélo de location, enfin bon bref, différents modèles. Et on voit que les membres ont cette envie d'investir dans des projets qui font du sens. Là, c'est marrant. Avant, quand vous étiez en train d'arriver, j'étais en visio, vous l'avez vu, j'étais en train de parler avec un fondateur. On va investir chez lui. Alors qu'il m'a dit, moi, je ne suis pas là pour gagner de l'argent. Je suis là pour avoir un impact colossal sur l'écosystème. Il fait un truc où il récupère, tu vois, des légumes et des fruits moches, si je fais très simple, qui vont être gaspillés. Il m'expliquait qu'en Bretagne, il y a 200 tonnes par jour de légumes, fruits et légumes qui sont jetés. C'est-à-dire que c'est des camions entiers qui sont jetés. C'est un mec qui a travaillé en grande distribution pendant 20 ans et qui en peut plus, tu vois, de voir le gaspillage. Il a créé un business qui fait déjà 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en faisant des paniers de fruits et légumes, si tu veux, un peu comme anti-gaspi, mais en poussé parce que lui, il a accès à la matière première, à savoir le produit, tu vois, ce qui est le plus compliqué à trouver. Donc lui, il a dans le poisson, dans la viande, dans les fruits, dans les légumes. Il dit, mais moi, je veux faire quelque chose qui a vocation à avoir un impact énorme. Je suis pas là pour vendre à des financiers. Je peux pas vous assurer qu'un jour, vous pourrez trouver de la liquidité. Mais en fait, le mec portait tellement ses valeurs, il était tellement impliqué, il était tellement chaud. Tu vois que c'était une mission de vie, quoi. Quand il se levait le matin, il a 50 ans, il a pris une tonne en vendant d'autres boîtes. Il a dit, moi, je fais ça pour kiffer et aider les gens et les aider à mieux manger. Parce qu'aujourd'hui, il y a un Français sur deux qui est en surpoids. C'est pas parce qu'ils veulent être en surpoids, c'est parce qu'en fait, on les a nourris avec de la merde et qu'on mange tous des trucs industriels et qu'on a oublié que faut pas manger low cost. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me perturbe. C'est que depuis tout petit, moi, comme j'étais pauvre et mes parents étaient pauvres, on nous disait faut aller chez Leader Price et acheter du discounté. Sauf qu'en fait, discounté, c'était de la mauvaise qualité. Et donc, on nous a appris à sacrifier la qualité pour payer moins cher. Alors qu'en fait, je pense qu'on devrait simplement donner plus de pouvoir d'achat aux gens ou leur permettre de repenser le système vertical de la production de manière à ce que tout le monde puisse avoir accès à des produits de qualité. Et lui, c'est exactement le discours qu'il m'a tenu tout à l'heure. On va le financer. Et ça, c'est quelque chose qu'un fonds ne pourrait jamais faire. Parce qu'un fonds, il ne peut pas justifier à ses LPs, je fais un truc parce que je pense que ça va avoir un impact. Non, le LP, ça veut dire, mec, moi, je suis là pour faire de l'oseille, me prends pas la tête. Nous, ce qui est génial chez Blast, c'est qu'on propose un dossier aux membres. Ceux qui veulent y aller, ils y vont. Ceux qui veulent pas y aller, ils y vont pas. Et moi, pour être très transparent, je pense qu'on va gagner beaucoup d'argent en plus avec ce projet. Parce que c'est tellement porté de manière authentique et il y a tellement une mission qu'il y arrivera beaucoup mieux que quelqu'un qui serait dit, alors attends, faut que je gagne de l'argent, bon attends, je vais vendre des légumes, je sais pas où les trouver. Non, lui, il le fait d'abord pour apporter de la nourriture de qualité. Il a commencé, il a fait 50 paniers dans son garage. Le lendemain, il en a fait 100. Là, il en a vendu 1 million de paniers.
Okay.
T'imagines le dégât. C'est-à-dire que le mec, et il a une stratégie que j'adore, il a dit, nous, je ne recrute que des gens qui n'arrivent pas à bosser ailleurs. Donc, tu vois, le mec a vraiment une stratégie qui sort des cases. C'est-à-dire qu'il veut que des repris de justice, des handicapés, des gens qui n'ont pas été à l'école, que des gens dont personne ne veut. Et il dit, moi, ouais, je leur mets un CDI. Et en fait, ces gens, je leur crée une sorte de dette émotionnelle parce qu'on les a soutenus et ils vont travailler hyper bien, ils vont nous soutenir. Ouais, ok, c'est aussi ça, Blast. Et c'est aussi ça, l'investissement. Et ça, tu l'expliques à un fond parisien.
Ouais, si, tu lui.
Pas quoi, tu vois.
Tu lui expliques qu'il y a les avantages fiscaux de la réinsertion professionnelle, qu'il n'y a pas de charge patronale, les charges salariales, t'inquiète, l'État, il t'aide. Il y a des trucs business à trouver derrière. Anthony, je voulais savoir un peu comment tu gères les SPV. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais tout le temps président des SPV. Alors, pourquoi ce choix-ci? Et est-ce que tu es tout le temps au board ou pas? Voilà. Comment, c'est quoi un peu ta strat là-dessus? Comment tu vois les choses et pourquoi?
On a des avocats en interne qui bossent à 100% de leur temps chez nous, des anciens partenaires de gros cabinets, parce qu'il y a un énorme déploiement opérationnel juridique. C'est toujours moi qui suis président de la société parce que les gens viennent pour investir à mes côtés. Et donc, ils comprendraient pas qu'il y ait un Gustave qui soit président ou une Florine. Ils ont envie que je sois là et quelque part les fondateurs, ça leur crée aussi un lien avec moi, une proximité, c'est moi qui signe, ils ont confiance et je porte la responsabilité. C'est très important pour moi d'assumer qu'on met les pieds dans un système qui est compliqué et que moi je ne me défausserai pas. Si tu veux, un fonds d'investissement, s'il fait une mauvaise perf, c'est le fonds. C'est, admettons, Alven, Kima Ventures, Utopia, c'est un fonds qui fait une mauvaise perf. On ne sait pas qui a pris la décision. Moi, c'est Anthony Bourbon. Quel que soit le résultat, ce sera de ma faute. Si on est très riche, les gens vont dire c'est un génie. Si on foire, ils vont dire c'est un escroc, c'est un voleur, il est nul. Ils vont nous défoncer comme c'est le cas à 100% sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu peux pas faire l'unanimité. Même quand je fais des trucs bien, il y en a qui vont me le reprocher. L'autre jour, c'est quand même fou. Hein. Mais j'expliquais que j'avais donné de l'argent à une cause bon, pour les étudiants et tout, un truc qui me parle. Et j'avais quand même des gens, des haters, qui disaient « Il fait ça pour défiscaliser, quel enfoiré !» Enfin, toi, c'est quand même fou. Tu dis, tu donnes de l'argent à l'association, c'est-à-dire que tu n'as rien à gagner. Tu défiscalises, enfin, rien à foutre, tu vois, défiscaliser 25%, si tu veux, ça change rien, moi, feuille d'impôt. Et il y a quand même des gens qui viennent te critiquer. Donc, moi, j'assume, je mets mon nom sur tous les SPV, je suis le président. Quand il y aura des échecs et qu'il y aura des boîtes avec marqué faillite, il y aura marqué Anthony Bourbon au-dessus, j'assume à 100%. Et c'est aussi comme ça que je trouve l'énergie d'aller chercher les meilleurs dossiers, de me mettre en risque, parce que c'est ce qui m'excite, tu vois, moi, ma vie, c'est le risque. C'est-à-dire que depuis que je suis tout petit, je suis le gars dans lequel on ne croit pas. C'est-à-dire que quand je disais aux gens de mon entourage, un jour, je serai millionnaire, ils explosaient de rire, parce que mon père, il était contrôleur de train, mon arrière-grand-père, il était sous les trains. Moi, on a toujours été sur les trains, dans les trains, sous les trains, avec un peu de travail, si tu veux. Ma mère était vendeuse, et quand je suis devenu millionnaire, et que j'ai dit je vais être milliardaire, pareil, les gens se moquent de moi. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde me dit Anthony, millionnaire, ok, c'est faisable, mais milliardaire, t'abuses, tu pourras pas. Quand je serai milliardaire, je dirai maintenant je veux 100 milliards. Je le sais parce que je vais le faire.
C'est pour ça que t'es pote avec Jonathan, en fait. Hein.
Ouais, voilà. Pareil, on a la même détermination. Et Jonathan, c'est Angelov, Aircall, c'est le même délire. Il était à la DAS, pas de parents. Mais en fait, cette énergie que t'as accumulée, cette envie de vengeance, de revanche, c'est ce qui te permet de réussir et c'est marrant parce que cette lumière que tu peux aller chercher, elle vient souvent de tes zones d'ombre, mais c'est aussi ces zones d'ombre qui peuvent éteindre complètement ta lumière. C'est-à-dire qu'on est nos plus grands ennemis, on est nos plus grands dangers avec Jonathan parce qu'on a toujours ce côté extrême, on a toujours cette haine quasiment, tu vois, qui peut ressurgir. Et cette haine, soit on va réussir à la transformer en énergie positive et on va aller motiver des gens, on va aller essayer d'inspirer des gens qui ont vécu ça, soit on va être consumé et on va tomber dans le cliché, on va devenir des pauvres mecs parce que on aura tellement manqué quand on a été jeune qu'on va devenir prétentieux, qu'on va rouler qu'en Ferrari, on va oublier d'où on vient. Et donc tu dois toujours choisir ce chemin.
Et le chemin est toujours assez compliqué, hein. Faut faire attention de pas tomber à droite ou à gauche. Du coup, t'es au board aussi des boîtes ou pas?
Alors, je suis pas au board des boîtes parce qu'on en a 50 par an et donc ce serait mentir de dire que je peux toutes les faire. Ce qu'on fait, c'est qu'on a une personne de Blast dans chaque board, mais pour le coup, qui va être présent, qui va pouvoir aider. Et moi, tous les fondateurs ont mon WhatsApp. C'est-à-dire que je leur ai expliqué, quand ils ont un problème que personne ne peut résoudre, ils m'appellent. Et en général, je peux le résoudre en 10 minutes, tu vois. Mais c'est vraiment de l'extrême urgence quand il y a un gros problème. Sinon, on a mis en place un système de reporting qui est super bien fait. On a des analystes qui sont au board. On a un directeur des investissements qui suit toutes les participations pour voir si tout va bien. Et quand il y a des alertes rouges, on en parle en comité d'invest et on se dit comment on peut aider la startup, comment on peut faire. Mais pour être encore une fois très direct et très franc, on n'est pas intrusif dans la gestion de la boîte. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à être comme les fonds d'investissement, à demander 40 documents de plus à chaque board. Nous, on parie sur des entrepreneurs qui sont indépendants, autonomes, force de proposition, qui peuvent nous contacter de manière proactive quand ils ont besoin, mais on va parier sur de l'humain qui est capable de travailler seul. Tu vois, on n'est pas des nounous. Et par expérience, quand on investit sur un entrepreneur qui a besoin de toi tous les 3 jours, c'est pas bon signe, tu vois, c'est qu'il sait pas à sortir. Et puis après, nous, on a la chance d'avoir des fonds qui nous rejoignent au tour suivant et qui, eux, vont passer beaucoup plus de temps avec l'entrepreneur. Donc, on est plus un Kima Ventures, comme tu le disais tout à l'heure, mais avec des tickets de 1, 2 millions qu'un fonds qui va vraiment suivre sa ligne comme un fou tous les jours.
Ouais, on va revenir là-dessus juste après. Je me demandais, est-ce que tu prends quand même des experts dans la commu? Par exemple, je sais pas, tu montes une medtech, t'as un expert des medtech dans la commu, tu le mets aussi, tu pourrais pas le mettre au board ou l'impliquer davantage dans la boîte?
Bien sûr, c'est ce qu'on fait et c'est évidemment un point crucial du club. Quand on a des sujets très techniques, on en parle sur Discord, on dit est-ce qu'il y a des experts, ils nous envoient leur CV parce qu'on a toujours 50 demandes, parce que les gens veulent tellement aider. Mais en fait, le CV LinkedIn nous permet vraiment de filtrer et on les fait venir pendant la due diligence, on leur demande leur avis, ils font un reporting aux autres membres pour dire ce que eux ont vu. On a vraiment un modèle ultra transparent, c'est-à-dire que tu vas sur notre Discord, n'importe qui peut dire ce qu'il veut. Parfois, ils nous taillent, parfois ils disent « Ah, ça, c'est pas une bonne idée, ce que vous avez fait, c'est nul, machin, ça gueule, tu vois. » Mais au moins, c'est full transparent. On a recruté, c'est pas le bon terme, mais choisi des ambassadeurs dans les grandes villes pour que eux, on leur donne du budget pour organiser des dîners avec les membres. On a vraiment voulu faire quelque chose en mode blockchain, tu vois, vraiment ultra horizontal. Et du coup, quand on a un sujet, ça nous est arrivé l'autre jour, on a investi dans une boîte. Le nom m'échappe, je suis nul pour les noms et tout, mais c'est du trading, un algorithme de trading qui fait que les grandes boîtes du CAC ont besoin de moins de liquidités pour maintenir leur cours d'action. Delta Blocks, ça s'appelle. Bon, c'est quand même ultra technique le truc, c'est des matheux qui ont fait 15 ans d'études. Donc moi, quand ils me racontent leur histoire, je trouve ça cool. Mais si tu veux, je suis incapable de savoir. Ouais,
c'est bien, pas bien, pertinent, pas pertinent.
À avoir mon bac S, moi. Donc, tu vois, si tu veux leur truc avec des symboles égyptiens, j'ai un peu du mal. Mais on a fait venir des mathématiciens et des traders du club. Ouais. Ils sont venus creuser, diguer et nous dire, bah, c'est top, allez-y. Et donc, du coup, on les fait même venir en live. Et évidemment, parfois, on en met au board. En plus des key opinion leaders qu'on a fait venir dans chaque secteur, on en a en Web3, d'autres en IA, d'autres en SaaS, d'autres c'est dans la food tech, d'autres c'est dans le retail, d'autres, tu vois, et c'est ça qui est cool, c'est qu'on a toujours quelqu'un qui est légitime pour parler en plus de mon avis business.
Faut qu'on avance que le temps commence à nous presser. Tout à l'heure, tu nous as parlé des reportings. Comment un peu tu travailles tes reportings, à quoi ils ressemblent? Est-ce que t'es parti toi sur 100% du reporting vidéo, du reporting texte? C'est quoi un peu les leçons que t'as tirées là-dessus?
On a un template super précis qui est très bien fait, designé par les équipes Blast. Et du coup, chaque trimestre, les fondateurs doivent le remplir, nous le faire suivre. Il est d'abord validé par la personne qui est en board. Et une fois que c'est validé, que tous les chiffres sont vérifiés, on l'envoie automatiquement dans un CRM qu'on a mis en place avec Airtable à tous nos membres, de manière à ce que trimestriellement, ils reçoivent le suivi de toute leur participation.
Bah excellent. J'ai une petite question. Alors pour le coup, mon côté Sciences Po philo va ressortir, je m'en excuse par avance. mais un truc qui m'intéresse, c'est justement dans l'idée de l'horizontalisation. J'ai peut-être inventé un mot en live.
Ouais, mais... ça me va, bon, horizontalisation.
Mais justement l'idée que on prône le fait que tout le monde puisse se cultiver, tout le monde puisse investir, tout le monde puisse participer. Et tout à l'heure, tu nous as lâché des miettes d'une vision de la société que tu as pour le futur, qui est ma foi très intéressante. Mais justement, si tout le monde booste son éducation aux finances personnelles, si tout le monde apprend à investir, si tout le monde peut participer dans des clubs deals à justement 10-15% du patrimoine, est-ce que le modèle s'effondre pas? Et comment tu le vois?
Je pense que malheureusement, avant que 100% de la population veuille passer le pas on a beaucoup de marge. T'imagines, on est 3 500 chez Blast, il y a 65 millions de Français, donc ça laisse de la place. Je pense vraiment que la société doit accepter que la technologie sauvera notre monde. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt dans l'espoir de l'intelligence humaine à toujours se réinventer, à toujours aller plus loin, plutôt que de se dire on doit aller vers la décroissance, il faut arrêter de consommer, il faut gagner moins d'argent. Je pense qu'au contraire, si les gens sont capables de mettre leur épargne autre part que dans le PEA, PEL ou Livret A, ça va vraiment servir la France. Et c'est d'ailleurs pour ça que même les politiciens, j'ai reçu Paul Midi l'autre jour à l'appartement, qui sont en train de mettre des mesures dans cet esprit pour que les Français soient défiscalisés quand ils investissent en start-up. Je pense que
C'est déjà en partie le cas, quand même.
ouais, mais on est très en retard par rapport aux autres pays. C'est-à-dire qu'on a la loi Madelin, t'es capé à 25 000 max, c'est vraiment pourri. C'est-à-dire qu'aux US, aux UK, t'investis, ce que tu gagnes, tu payes pas d'impôts, tu le réinvestis. Si t'as des pertes, tu te l'enlèves de tes impôts. T'as vraiment des trucs ultra attrayants qu'on n'a pas encore en France, hein. Donc c'est très bien qu'ils s'y penchent. Mais pour revenir à ta question, moi je pense que plus l'humain se forme et plus il y a de valeur créée chez l'humain, mieux c'est pour la société. Et typiquement, il y en a qui me disent, c'est toujours cet argument horrible. Oui, non, mais l'intelligence artificielle, les machines, les pauvres caissières, quand elles vont être remplacées par les machines. En fait, ce qu'il faut, c'est former les caissières pour qu'elles fassent un travail à plus forte valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il faut pas les laisser là, les cloisonner, les emprisonner dans ce métier en se disant, bah, ça leur donne de l'argent. Non, en fait, toutes les évolutions de la société font peur. À chaque fois qu'il y a une crainte, moi je pense que la technologie peut la sauver et qu'il ne faut pas avoir peur de l'évolution. Donc plus on peut former les gens, et c'est vraiment une mission, on investit beaucoup d'argent chez Blast, 1 million d'euros chaque année, sur la création de contenu, sur les conférences qu'on va enclencher, et des gens me disent, mais attends, mais t'es con, c'est de la perte et tout. Ouais, mais en fait, je pense, et là c'est peut-être un peu prétentieux, mais même si les gens ne pouvaient pas investir chez Blast, je pense qu'il y en a beaucoup qui paieraient leur adhésion, même sans investir. Parce qu'en fait, on va créer tellement de valeur avec le network, avec les rencontres, avec les dîners, avec les masterclass qu'on fait, avec les lives, que, y a plein de clubs comme ça où tu vends juste du réseau. Ben nous, c'est on top de l'investissement. Donc vraiment, pour revenir à ta question, il faut former les gens. Moi, je suis vraiment pour un combat et que la classe d'en bas puisse se soulever dans le bon sens du terme. Je pense qu'il va y avoir des révolutions et les gilets jaunes, c'était que le début. Les gilets jaunes, c'était mal organisé, il n'y avait pas de leader, il n'y avait pas de vision. Et tu vois, il y a beaucoup d'écologistes et tout, et moi je suis à fond pour protéger la planète, hein. J'investis dans plein de boîtes. Mais les écologistes, parfois, vont avoir un discours de notre monde va mourir dans 200 ans. Et les gilets jaunes, j'adore leur truc, c'était de dire, bah, nous, c'est la fin du mois, tu vois, qu'on regarde et qu'on sait pas comment gérer. Et je pense qu'en fait, c'est cette énergie qu'ils ont déployée pendant 6 mois, même je trouve que péter des vitrines, tout ça, c'est vraiment de la merde et ça sert à rien, tu vois. C'est la preuve que la société veut changer et que la société est en train d'être bouleversée. Et je pense que ces gens, plutôt que de leur jeter des subventions ou de faire en sorte que le prix de l'essence baisse, bah, il faut les former à mieux comprendre la société qui les entoure. Faut leur expliquer que c'est possible de réussir et leur montrer des preuves par l'exemple. C'est-à-dire que malheureusement, il y a très peu de preuves par l'exemple en France et encore plus dans les startups, de personnes qui viennent d'en bas et qui ont réussi. Jonathan Angeloff, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, tu regardes les licornes ou les grosses startups, c'est toujours les mêmes profils, HEC,
Polytech et
Sciences Po,
tout.
machin, truc, Polytech, X, truc. Bon, bah c'est chiant parce qu'en fait, moi, quand j'étais petit et que mon père... sa seule passion, c'était de regarder la télé, et de faire du vélo. J'aurais jamais pu penser que c'était possible, en fait. Alors que si j'avais vu, alors t'avais Bernard Tapie à l'époque qui a fait un
Passer
peu
un peu à
ça,
la
tu vois.
télé et tout.
Mais si on te dit pas que c'est possible, en fait, l'humain, ce qui est incroyable, et moi c'est ce que je dis à tous les jeunes que je rencontre, parce qu'on aide des associations, on avait un fonds de dotation, on est hyper actif là-dedans, les gens ne réalisent pas leur potentiel. Et même quand je recrute des gens, parfois je vois quelqu'un de brillant. Mais je sais qu'il ne le sait pas encore. Donc, quelque part, c'est pratique pour moi parce que quand je le recrute, je me dis, je peux le payer moins cher que ce qu'il devrait me demander. Mais en fait, dès qu'il va être dans la team, je veux dire, je crois que tu captes pas ce que tu peux faire. Et j'ai un exemple en tête de Fanny ou Benjamin. Fanny, chez FID, elle est arrivée au service client. Donc, vraiment, je crois qu'elle est payée 28 000 ou 25 000, un truc vraiment pas ouf, 30 000, bon, bref, peu importe. Je l'ai fait monter directrice du service client. Et après, je lui dis, tu peux faire beaucoup plus. Moi, j'ai plus confiance en toi que toi, t'as confiance. Et je l'ai fait passer au online au CRM. Après, je l'ai fait passer directrice du CRM. Et elle m'a dit, mais attends, en 2 ans, j'aurais jamais imaginé ça. Moi, j'étais contente de faire le service après-vente, quoi, tu vois. Et c'est ce que j'aime faire. Pareil, Benjamin, il est arrivé, il sortait d'études, il voulait être ingénieur agro. Je l'ai fait monter direct chef de produit. Aujourd'hui, il gère quasiment feed avec Mélanie. Et il faut que les gens aient confiance en eux. Et ces gilets jaunes, si on leur disait, tu sais, ta vie, ça peut être autre chose que des situations de merde et que des problèmes. Je pense qu'ils seraient prêts à sortir les doigts. En France, on a cette vision très mélanchoniste, tu vois, où les Français sont des feignants, etc. Moi, je pense que tout le monde a envie de réussir, tout le monde a envie de s'extraire. Et au moins, si on donnait les cartes à tous ceux qui en ont envie, mais ils auraient plus d'excuses. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, typiquement, j'étais dans des écoles, il n'y avait pas de prof, quoi. J'étais dans des écoles, les profs ne venaient pas. C'était incroyable. Moi, j'étais content, je jouais au foot, tu vois, maintenant. Mais, à côté de ça, j'avais des gens du même âge que moi, qui étaient dans des lycées
Quelqu'un en
privés,
D4, les deux
qui
grands.
avaient fait 4 fois le tour du monde, donc ils parlaient 4 langues quand moi je parlais à peine le français. J'avais déjà une distance tellement énorme entre eux et moi que je ne pouvais pas réussir normalement par rapport à eux. C'est que les hasards de la vie et tu vois une obsession par mes échecs qui font que j'ai pu rattraper ce petit retard parce que par chance, ceux qui ont eu tout ce qu'il fallait dans la vie, parfois manquent d'énergie et d'ambition parce qu'ils réalisent même pas la chance qu'ils ont. Donc, bref, tout ça pour dire que moi, j'aurais tendance à faire une école qui est pas publique ou privée, mais une école commune où les riches qui ont la possibilité de payer, bah, le font. Moi, tu vois, ça me dérangerait pas du tout de payer pour une école globale alors que quelqu'un qui est pauvre ne paye pas. Tu vois, je m'en fous. Mais au moins, tout le monde aura la même éducation, tout le monde aura les mêmes profs. Et si les pauvres ne réussissent pas, à ce moment-là, bon, on pourra les défoncer. Et on pourra lui dire, ferme ta gueule, en fait. T'avais les mêmes profs que l'autre, t'avais les mêmes possibilités, à un moment, tu vois, arrête de te plaindre. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les politiciens sont pas légitimes pour faire ce genre de choses parce qu'ils viennent tous du même milieu. Donc, en fait, un mec qui a fait l'ENA et qui te dit, oui, tout le monde peut réussir, il faut travailler, se relever les manches. Tu peux pas dire ça. Moi, en vrai, je suis tranquille, je peux le dire. Parce que j'ai le profil qui s'est relevé les manches et qui a vraiment vécu dans la merde. Donc, bref, vraiment, je pense que le système politique va changer. Je suis impatient de voir tout ça.
Pour revenir au Blast, comment tu vois le futur du Blast? On a un peu parlé. Paul Midi a une stratégie qui incite vraiment tout plein d'acteurs à créer un fonds et pas un club deal. Type, par exemple, on peut penser les fonds alumni des écoles, etc. Macron a annoncé durant Vivatech, où on était partenaire, que, pareil, il voulait, déployer toujours plus d'argent, aider les fonds de fonds à monter des fonds, etc. Est-ce que ça peut être un sujet pour le Blast? Comment tu vois un peu, ça évoluer?
Je pense que on apprend en marchant. On veut pas se précipiter. J'aurais jamais pensé avoir 100 millions à investir dès la première année. Et l'année prochaine, on va avoir 200 millions. À un certain moment, je pense que, est-ce que c'est dans 1 an, dans 2 ans, on devra créer des fonds d'investissement, effectivement, parce que ce sera trop compliqué de proposer 80 dossiers dans l'année. Tu vois, opérationnellement, c'est impossible. Et on n'a pas envie de lésiner sur la qualité. C'est pour ça que je refuse des membres. Les gens me disent, mais pourquoi tu prends pas les 20 000 membres? Parce qu'en fait, je serais obligé de mal investir. Si j'ai 20 000 membres, ça veut dire que j'ai 500 millions à te mettre par an. Bon,
Ah, soit tu fais
c'est
beaucoup, beaucoup de
impossible de
volume.
bien investir
Ouais.
500 millions par an. Tu fais tous les deals de merde, tu vois. Donc, je veux pas faire ça. Donc, on va être obligé à un moment de faire des fonds qui seront un peu plus late stage. C'est-à-dire qu'on investira plutôt des tickets à 5, 10, 15 millions. On continuera notre partie club parce que c'est super excitant pour les membres, ludique, amusant, tu vois, d'aller choisir chaque semaine le deal qui t'intéresse. On a réfléchi à investir dans d'autres classes d'actifs, comme l'immobilier, mais on ne va pas le faire après réflexion, parce que je pense que la vraie légitimité, c'est d'être expert dans ce que tu fais, et que si tu commences à faire de l'immobilier, tu peux l'expliquer, parce que j'ai fait de l'immo quand j'étais jeune, donc j'aurais pu dire, non, mais je suis pas un expert. Donc en fait, j'ai pas de conseils à donner, et aller chercher un expert immo pour le faire, je trouve que ça tord la promesse de Blast. Ce qu'on veut, c'est faire de la startup, du private equity, faire un marché secondaire qui est exceptionnel. Ça, c'est vraiment la suite de notre mission. Réussir à créer de la liquidité, faire en sorte que les membres de Blast puissent vendre leur participation quand ils veulent. Et comme on a tout blockchainisé, c'est-à-dire que une personne qui veut vendre 2000 euros de titres, il peut le vendre instantanément. Et comme on a KYC tous les membres, automatiquement la cap table va se mettre à jour et on va voir que Madame Dupont a vendu à Monsieur Michel et que Monsieur Michel maintenant est dans notre SPV. Et là, on a craqué, je pense, le vrai problème des startups qui est, il faut attendre 8 ans avant d'avoir un cash out. Non, tu peux vendre tes parts de startup Et je cherchais plus 30%. Tu veux pas forcément faire des multiples de martiens comme les fonds d'investissement. Peut-être qu'il y a des gens, quand ils font plus 30% sur une ligne, ils sont contents parce qu'ils vont comparer ça au 0,75% qu'ils prennent avec leur livret A. Et ils seront très contents. Donc, ça va changer le jeu des startups qui vont être tradés, je pense, à court terme et moyen terme. C'est-à-dire que ce sera plus de l'investissement long terme que tu reverras 10 ans après, mais de l'investissement moyen terme. Admettons, t'es rentré dans une startup à 10 millions de valo. Cette startup a fait un méga tour de table et elle est valorisée 100. Bah toi, tu dis, moi, je suis OK pour faire un discount. Je vous la vends à 80 et je suis persuadé que sur la plateforme, vu qu'on aura beaucoup de monde qui viendront et que là, tu n'auras pas besoin d'être membre pour acheter. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être membre pour acheter sur le secondaire. Tu as besoin d'être membre pour vendre.
OK.
Bon, ben là, logiquement, ça devrait créer beaucoup de
liquidités.
Du coup, les gens, les membres, et c'est vraiment mon combat, pourront réussir à liquider leurs actifs.
Et du coup, comment tu gères à la fois la valo, et en plus, tu as une publication à chaque fois que tu modifies un SPV?
Ouais, alors tout est automatisé parce que c'est, je sais plus quelle forme de SPV, il faudrait demander à Vanessa qui est notre directrice juridique, mais on n'a pas besoin de déclarer à chaque mouvement, on doit le faire une fois par an, dire voilà l'état de la cap table, passer des, c'est des trucs à capital variable.
Ouais,
C'est des trucs à capital variable, donc t'as pas besoin de prévenir à chaque
fois. C'est comme un fonds à capital variable.
Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, ben pour les valos, ce sera des propositions de gré à gré. C'est-à-dire que nous, on n'a pas vocation à être un système de trading, mais par contre, on encadrera les valorisations pour pas qu'il y ait d'escroquerie. C'est-à-dire que quand la boîte vaut 80, parce que nous, on sait à peu près à combien elle vaut, tu pourras pas la vendre 230. Tu vois, parce que la personne qui va acheter à 230, peut-être qu'elle comprend rien à comment ça fonctionne et on va la protéger. Mais ça va être vraiment automatique. Et c'est assez simple à faire. En fait, tu mets des échelles, tu vois, à plus ou moins 35% de la valo. Et après, chacun fait ce qu'il veut.
Ok, mais donc, tu auras quand même en interne presque une personne qui vient du M&A qui sera là pour te valoriser chaque boîte à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut sortir.
Exactement.
Ok. Ce qui est passage peut être pas mal pour l'entrepreneur qui va avoir une visibilité sur la valo de son patrimoine et tout.
On travaillera main dans la main avec l'entrepreneur. On regardera le chiffre d'affaires, l'évolution qu'il y a eu depuis le dernier tour. Et puis, c'est vrai que les startups, on a de la chance d'avoir des valos qui sont posés à chaque tour de table. En fait, et comme les tours de table, il y en a quand même assez régulièrement, ça nous permet d'avoir de la visibilité.
Est-ce que tu penses t'européaniser ou pas? Parce que du coup, toi, tu as une accréditation qui te permet d'ouvrir n'importe quel pays en faisant juste un petit coup de téléphone à l'AMF locale.
Ouais, ça s'appelle passeporter, ça s'appelle ton agrément, donc c'est assez simple. Hein. Le plus dur, c'est d'avoir ton agrément. On est les plus rapides, d'ailleurs, de l'histoire de l'AMF à l'avoir eu. Donc, ça montre à quel point on a fait un bon dossier, à quel point c'était solide. Il y en a beaucoup qui critiquaient Blast. Hein. De toute façon, tout ce que je fais, comme on est visible avec la télé, va vite être critiqué. Donc, quoi que tu fasses, les gens vont dire c'est une escroquerie, c'est ci, c'est ça. Et en fait, quand ils ont vu qu'on a eu notre agrément au bout de 2 mois seulement, il y a beaucoup qui étaient étonnés. Mais oui, pour revenir sur ta question, l'Europe, c'est assez facile pour nous à déployer. On a déjà fait d'ailleurs des dossiers européens, c'est-à-dire qu'on investit avec le club français de dossiers européens. Là, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle Blast Raw, Rest of the World. On en parlera plus en détail bientôt, mais effectivement, l'idée, c'est de créer des clubs dans chaque pays, avec à chaque fois un key opinion leader qui est légitime. Donc moi, je me concentrais sur la France, c'est pas mon travail d'aller à l'étranger. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on aura Blast UK, Blast Allemagne, etc., on pourra s'apporter des dossiers les uns les autres. Et typiquement, si un tour est trop gros pour Blast France seul,
on fera Blast au monde,
on pourra faire différents Blasts qui se liguent pour aller chercher les financements. Et là, ça ouvre des portes vraiment faramineuses. Hein. Faut savoir que quelqu'un qui investit 100 millions comme on le fait avec Blast, c'est ce qu'on appelle un fonds de 400-500 millions. Parce que quand on dit fonds de 400 millions, c'est un fonds qui doit déployer pendant 4-5 ans. Donc, dès la première année, un fonds de 400 millions, il n'y en a pas beaucoup en France.
Pour arriver tranquillement sur la fin de cet épisode, on avait quelques petites questions qu'on pose régulièrement en conclusion de l'épisode. Est-ce que tu veux commencer, Ariane?
Alors, c'est assez, pour le coup, début de business meeting entre deux banquiers, mais... S'il y a des tendances que tu vois arriver avec toute ta sagesse, soit sur le marché des startups, soit en général, dans les années à venir, comment tu t'informes dessus? Comment tu t'y prépares? Et si tu peux nous en dire un peu plus.
Je suis abonné à plein de newsletters, hein, la vôtre, par exemple. C'est vraiment hyper important de chaque semaine être abreuvé d'informations, de les lire, de les apprendre. J'écoute beaucoup de podcasts américains. Les Américains sont toujours en avance, hein, c'est malheureux, mais c'est le cas. Je rencontre aussi beaucoup d'entrepreneurs. Donc ça, c'est une chance parce que On reçoit 300 dossiers par semaine et moi je rencontre 10, 15 entrepreneurs chaque semaine. Donc à chaque fois, il m'apporte de l'information que je peux digérer, je peux faire des recherches. Je travaille beaucoup avec ChatGPT aussi, tout seul, qui devient mon copain. Et donc à chaque fois que j'ai des nouveaux thèmes, je parle avec ChatGPT pendant 1 heure pour creuser tous ces trucs. Et puis, j'ai quand même des convictions assez fortes sur certains secteurs qui vont faire du sens. Le climat, t'en as parlé, j'y crois à fond. Le spatial, je pense qu'on est très en retard au niveau européen et que si on veut pas être complètement dépassé par le reste du monde, il va falloir qu'on se positionne assez rapidement. Et je sais que la France, à ce niveau-là, est en train de préparer des budgets. Je crois beaucoup dans l'intelligence artificielle, forcément, et je pense qu'elle peut apporter beaucoup à l'humanité. Encore bien plus que le fait un chat GPT, hein, mais qui a une puissance déjà incroyable. Je pense que tous les métiers vont être bouleversés par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pas que l'humain va être écrasé par l'IA, c'est simplement que l'humain va devoir travailler avec l'IA. C'est comme si tu disais, l'agriculteur, il a été dépassé par son tracteur. Ben non, l'agriculteur utilise le tracteur et du coup, il a moins mal au dos. Bon, mais c'est la même chose pour un médecin. Je suis persuadé qu'un médecin, dans quelques années, ne pourra plus faire une fiche ou une ordonnance sans avoir une validation de l'IA. Parce que l'IA, dès aujourd'hui, est plus performante que 90% des médecins. Elle passe n'importe quel test du barreau, n'importe quelle médecine, n'importe quel truc de médecine, et elle arrive mieux à trouver les maladies que le médecin. Donc, en fait, elle va faire des choses qui sont absolument impossibles pour un humain classique. Elle va pouvoir analyser 25 millions de mutations génétiques en 3 secondes, alors qu'il aurait fallu 10 ans à un médecin. Donc, en fait, en même temps que tu fais ta consultation, l'IA va tourner. Donc, il n'y a pas de peur à avoir, et c'est des secteurs qui sont évidemment extrêmement intéressants à creuser en tant qu'investisseur parce que tu as l'impression d'écrire une petite partie de l'histoire et d'aller chercher des entrepreneurs comme ça qui sont passionnés par ces sujets, mais ça te nourrit et c'est vraiment une culture générale business qui est énorme et c'est pour ça que je veux pas me limiter à une verticale, mais je veux apprendre un maximum parce que c'est passionnant.
Pour arriver sur la fin de cet épisode, est-ce que Ariane, t'as une question à poser qu'on n'a pas posée? Ou est-ce qu'on a fait le tour?
Le pire, c'est que j'avais une question et qu'Anthony y a répondu lui-même sans qu'on lui la pose. C'était justement la question de la responsabilité par rapport au fardeau, entre guillemets, de bah, c'est tes décisions d'investissement, hein, le blast. Donc si ça foire, il y a
sera
ton
pour ma
nom,
pomme,
tu
sera pour ma
vois?
pomme.
Mais donc, je pense que c'est beau le fait que tu l'aies mentionné tout seul et que tu aies une réflexion derrière ça.
Ouais, c'est pas facile parce qu'il y a des gens, et je le sais, qui vont perdre de l'argent.
Ouais.
C'est-à-dire que on ne peut pas se voiler la face et dire tout le monde va gagner. Deux sujets là-dessus. Donc le premier, c'est que c'est pas facile parce que parfois tu rencontres des gens qui disent Anthony, vraiment, je mise sur toi, j'espère que ça va le faire et tout. Je leur dis attendez, c'est de la start-up, hein, les gars, vous devez être conscients qu'il y a des risques, etc., etc. Donc ça, on le répète. Et maintenant, on va même mettre des comités de sélection des membres pour plus le faire en drop, mais tu devras passer devant un comité pour savoir si on te fait rentrer dans le club. Donc ça nous permettra, tu vois, de vraiment filtrer les profils à risque qui n'ont pas réalisé que c'était dangereux, qui n'ont pas assez d'argent pour venir dans Blast. Donc c'est une responsabilité, mais en même temps qui me motive, moi je suis pas du genre à me défiler. Ça m'excite et ça me motive et ça m'oblige à faire du mieux que je peux. Ça veut pas dire que j'y arriverai, mais en tout cas j'assumerai et c'est aussi ce qui rassure les gens. C'est-à-dire que quand ils voient que mon nom il est en gros et que ma tête elle est sur la home page, tu sais que je peux pas faire n'importe quoi. Je peux pas faire n'importe quoi avec ton argent parce que sinon je
T'en gaffes
crame
une
ma
image.
carrière. Tu vois, ma carrière est cramée. J'ai quand même la chance de pouvoir gagner pas mal d'argent en faisant de l'immobilier, en investissant dans des startups, avec la télé, les livres, les conférences. S'il y a un problème, que c'est une escroquerie, que c'est que là, c'est-à-dire que ma vie est terminée en France, là, parce que tout le monde me connaît en France. Donc, je peux pas me permettre d'échouer. Et c'est quelque chose d'effrayant, mais aussi de très excitant, parce que je pense réellement qu'on peut faire quelque chose d'intéressant pour tout le monde. Réponse 2, c'est comment, moi, je peux éviter que les gens perdent de l'argent? Et ça, c'est quelque chose qui nous obsède avec mon cofondeur Samuel, et on a plusieurs pistes à ce sujet-là qu'on va mettre en place très rapidement. La première, c'est de forcer les gens à investir dans une classe d'actifs qui est sécurisée. Un peu comme on le fait avec les obligations d'État, on va leur dire vous devez sur votre poche d'investissement nous laisser au moins 30% en gestion et nous on va le placer sur des obligations d'État où on va garantir une partie des revenus. Ou alors c'est de dire vous nous en passez une partie dans un fonds d'investissement qui va être late stage. Et donc late, qui est moins risqué par définition, qui va permettre de compenser les risques. On est aussi en train de travailler sur deux autres modèles qui sont assez pointus. C'est la première fois qu'on en parle, mais potentiellement que les gens puissent, on l'espère si c'est validé par les différentes autorités des marchés financiers, investir chez Blast. Et si tu investis chez Blast, ça veut dire que tu toucheras du carried de toutes les startups. Et donc typiquement, même si tu n'as pas investi dans une boîte, vu que tu es investisseur de Blast, tu toucheras quand même des gains si cette startup arrive à sortir. Et on travaille sur une autre possibilité qui est une assurance. Un peu comme une assurance de start-up, c'est-à-dire que au lieu de payer 1000 euros ton adhésion, tu vas la payer 1200, admettons. Mais nous, on te garantit que tu toucheras assez d'argent pour rembourser à minima l'argent que tu auras investi. Comment c'est possible? Nous, on prend 20% de carried. Notre pari, c'est de dire, on est tellement confiant que même si on doit cramer 5% ou 10% de notre carried, à chaque fois que nous, on fera un gain, on le reversera aux gens qui n'ont pas encore récupéré leurs 10 000 euros initiaux. C'est-à-dire que même si tu n'as pas investi dans une boîte, quand nous on gagnera, on te reversera une partie. Et en fait, c'est la beauté du modèle, c'est que c'est un peu comme si on disait à la roulette, si tu tombes sur le rouge, t'es blindé, et si tu tombes sur le noir, tu récupères ton argent. Tu
vois, c'est pas mal.
Et donc ça, c'est quelque chose qui nous excite. Et en fait, on a créé un modèle financier qui est tellement fou avec Blast que c'est possible de le mettre en œuvre. Donc vraiment, ça, c'est différents scénarios. Et alors là, je suis full détente. C'est-à-dire que si je propose de payer 20% plus cher ton adhésion et que tu l'as pas prise alors que tu avais une assurance,
t'es responsable.
Merde, tu vois, t'es responsable de ton truc, je peux pas non plus tout te faire. Par contre, si t'as pris l'assurance et que moi, je prends sur mes bénéfices, parce qu'en réalité, c'est un projet de vie, tu vois, qui va plus loin que simplement gagner de l'argent. C'est-à-dire que je suis prêt à perdre de l'argent, ou en tout cas à perdre une partie de mes bénéfices, pour que les gens n'en perdent
pas. Tout le monde soit win.
Et là, en fait, tu as créé un modèle, encore une fois, qui est horizontal, qui est ouf. Ouais. Et ça change complètement la donne de marché financier.
Bonjour, c'est un super beau mot de la fin. Est-ce qu'il y a un dernier petit truc que tu veux rajouter ou on a fait un beau tour là de du Blast, du marché des club deals?
Non, on a fait un beau tour. Et merci encore de m'avoir invité, de donner la parole, puisque moi, le message, il est assez simple. C'est-à-dire que tout le monde peut y arriver, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'investisseur, que maintenant, il y a des outils comme Blast qui sont mis à disposition et qu'il y a de moins en moins d'excuses pour ne pas y arriver. Aujourd'hui, avec Internet, on peut se former très rapidement avec le digital. On n'est plus obligé de rester dans le même travail toute sa vie. Donc, chacun a son destin en main. Pas faire de victimisation, pas dire que c'est de la faute de l'autre, pas dire que c'est de la faute de la société, faire en sorte d'être le maître de son destin, le capitaine de son bateau. Et si jamais on peut aider des gens avec Blast, même si vous n'êtes pas membre, vous pouvez suivre nos réseaux sociaux parce qu'on essaie de créer un maximum de contenu éducatif. On va parler des news startups, on va expliquer le vocabulaire, on va décrypter des news du quotidien. Donc même si vous n'avez pas encore les moyens d'être membre Blast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à la fois Blast et les miens d'Anthony Bourg.
Bah, merci beaucoup à tous les deux et très chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner d'une à la newsletter, de deux au podcast de d'Ariane, épargne-toi ça pour être au courant de tout sur la finance perso et puis aux réseaux sociaux d'Anthony et bah, merci beaucoup.
Merci.
À très vite.
Merci, ciao.
Au revoir.
Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.